1, 2, 1, 2, bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to 10 Million, le podcast. Il me semble, si mes comptes sont bons, que nous en sommes à l'épisode 16. Il s'appelle, tiens, c'est en train de devenir une tradition que je bug sur les premiers mots de l'épisode. Il s'appelle Masterclass Performance Personnelle. Et je suis très content de vous le délivrer. Vous allez découvrir au fur et à mesure de cet épisode pourquoi est-ce qu'il se nomme de la sorte. Je suis dans mon canapé, comme à mon habitude, il est 17h44, nous sommes le dimanche 1er octobre, mon anniversaire est dans exactement 3 jours, nous allons revenir aussi sur ce point derrière, puisqu'il était lié à un challenge que vous avez certainement suivi, qui s'appelait « Sécher pour scaler » et dont le dénouement a eu lieu hier. Vous allez voir qu'il y a eu quelques rebondissements. C'est un train qui passe, une voiture. J'ai cru qu'il y a une petite sonnerie qui s'était déclenchée. C'est déjà approximatif comme à mon habitude. Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Vous êtes bien dans le podcast Road to 10 Million. Je suis Théo Lyon, votre host. J'ai 25 ans et je suis le fondateur de Koudak, mon agence ads qui aide les e-commerçants et les startups dans leur stratégie de media buying, leur créa et leur tracking. Ça fait 3 ans et demi qu'on existe. L'entreprise fait à peu près 350 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, du moins c'est notre record. Et nous avons aujourd'hui quasiment une soixantaine de salariés. L'étape suivante, c'est de l'emmener à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ce qui donne le nom à ce podcast que vous écoutez actuellement. J'ai pour objectif de le faire avant novembre 2024. Donc, c'est du sérieux. Donc, dans cette émission que je vous livre chaque semaine le week-end, je me sers de mes expériences personnelles, de mes rencontres et de mes lectures diverses pour vous apprendre comment atteindre le top 1% dans ce que vous faites. Puisque c'est ma quête à moi-même, j'essaie de vous partager ce que j'apprends sur le chemin. J'essaie de faire en sorte que vous terminiez chaque épisode en ayant appris au moins un truc qui vous aide à grandir plus vite ou plus loin. Merci d'être avec moi et bienvenue dans l'épisode 16 de Road to 10 Million. Où est-ce qu'on s'était arrêté, les amis, la semaine dernière? Bon, déjà, je viens de m'asseoir dans mon canapé, j'ai claqué la porte de chez moi il y a à peu près 5 minutes. J'ai passé l'après-midi à un petit événement où j'étais invité par la chaire, Solène Calarec, mon amie, qui gère l'hôtel Mafouf. Et donc, pour la première fois, j'ai regardé un défilé de mode. Je vais être honnête, j'étais en découverte totale. Donc, je n'étais pas forcément en mesure de bien apprécier les choses, dis-moi visuellement, mais en tout cas, l'événement était très bien organisé. C'était sur la terrasse du Fouquet's, donc un endroit très, très sympa, plein de petites activités. Donc, ils font vraiment les choses assez bien. Donc, je suis content de pouvoir me poser un petit peu parce que ce week-end a été un rush. J'ai aussi fait beaucoup de sport, mais je ne commence pas à vous raconter ma vie. Du moins, pas si tôt, il y a une rubrique pour ça. Ça s'appelle les actus. Donc, précédemment, dans Road to 10 Million, il s'est passé 4 choses. La dernière fois, enfin, je vous ai noté 4 trucs, si jamais vous ne voulez pas écouter l'épisode précédent, mais allez l'écouter quand même, faites pas les bâtards, là. Donc, on avait clôturé la semaine dernière sur, je vous avais partagé mon petit coup de moins bien, je pense, en termes de motivation. Je ne sais pas d'où ça venait, c'est un peu compliqué d'en trouver les sources, peut-être que c'était le sommeil, peut-être pas. Et je vous avais aussi partagé en même temps comment réagir quand vous avez des semaines où vous êtes un peu down par rapport à votre niveau habituel, pour éviter de faire des conneries. Seconde chose, c'était la dernière semaine de sécher pour scaler, le challenge dans lequel je me fixais pour objectif d'atteindre 12% de body fat en 9 semaines. J'étais à 16,5% et donc j'avais un plan très clair qui était d'aller 3 fois à la salle par semaine, faire 500 kilocalories, bon vous avez compris, de déficit par jour et marcher 10 000 pas. C'était mon plan, il a duré 9 semaines, j'ai tenu les choses, vous allez voir, et le résultat est tombé. Je m'étais aussi arrêté, je venais de courir le Paris-Versailles, qui était une super expérience, pleine de souffrances et pleine d'apprentissage sur mon réel niveau en running, qui est un peu plus catastrophique que ce que je pensais, même si je m'entraîne beaucoup, ça prend du temps forcément, pour faire le volume. Mais ça m'a motivé pour aller faire une super performance au 10K de Paris-Centre, auquel j'espère vous croiser. Je crois qu'il y a beaucoup de Parisiens de toute façon dans l'audience, et il y a même pas mal de runners. Donc si vous me voyez, venez me dire bonjour quand même, faites pas les gens bizarres qui regardent, parce que ça, ouais c'est vrai, ça vous rendez peut-être pas compte. Je l'ai découvert, on en avait déjà parlé avant que je commence à avoir une mini auto sectorielle chez les entrepreneurs. Le plus bizarre, c'est pas les gens qui te reconnaissent dans la rue, c'est les gens qui te reconnaissent et qui viennent pas te parler. Parce que, en fait, le corps comprend très bien, mais je la connais cette personne. Et donc, ils font ce qu'on appelle des regards appuyés. donc le mec te fixe pendant 5 secondes. Tu sais pas trop ce qu'il veut en fait avec son regard, mais il a vu que c'était toi, il fait « C'est lui ? C'est lui ou c'est pas lui ?» Ah, c'est lui, attends, je vais regarder comme un peu. Et je vais même me retourner une fois que je l'ai croisé, pour être sûr. Et moi, je me retourne parfois et je croise leur regard. Et tu captes qu'en fait, ils t'ont reconnu, mais qu'ils veulent pas venir. Donc, ça, c'est super bizarre. Donc, si vous me voyez, dites bonjour, même un signe de la tête, je sais pas quoi, tu vois. Genre, je commence à être assez habitué. Donc, maintenant, je le retourne en échange. Voilà. pour pas que ce soit bizarre. Oui, je vous parlais de ça, pourquoi, pour le 10 km de Paris-Centre. Voilà. Donc, mon objectif, c'est de faire quoi? Je l'annonce ici, c'est de faire 47 minutes. Voilà. C'est très simple. Il faut courir 10 km en 47 minutes. Mon record est à 50 minutes 50 secondes. C'était il y a 3 mois. Donc, ça serait une belle perf d'améliorer un petit peu de temps. Mais il faut se mettre des objectifs ambitieux et j'ai quand même pas mal couru depuis. Donc, je pense que je peux m'en approcher, du moins. Et on avait fini par remettre pas mal de pendules à l'heure dans le dernier épisode. Entre autres, je vous ai expliqué une maxime que j'aime bien, qui est de faire de sa vie une aventure. On avait discuté de la relation entre le chemin et la destination, pourquoi les deux sont nécessaires et que ça sert à rien de dire « Ouais, le bonheur, tu comprends, c'est dans la quête. » Voilà. Et enfin, je vous ai expliqué comment ne pas vous faire courroux. Je vous ai pris les trois principaux de la semaine dernière, mais il y en a neuf, je crois, neuf ou dix. Il y en a beaucoup, donc bref. Ce podcast est une histoire, c'est pour ça que les épisodes se nomment des chapitres et pas juste des numéros. Donc, pour comprendre la suite de l'histoire, il faut regarder les chapitres précédents. Mais comme on est dans une bonne série américaine, pour les gros flemmards qui l'ont maté il y a une semaine, j'essaie de vous rappeler quand même ce qui s'est passé. Donc, au menu de ce podcast, nous avons quatre sections. Je suis en train de regarder si j'avais bien terminé mes notes. Je crois que je ne les ai pas terminées, mais ce n'est pas grave. Je sais un peu ce que je vais vous raconter. Donc d'abord, on va parler d'actualité. Je vais vous donner un peu le bilan de ce challenge, le Dexascan que j'ai fait. Petit débrief aussi sur un événement qu'on a fait la semaine dernière au Ritz pour nos clients. Je vais vous en parler un petit peu. On a quelques pendules à remettre à l'heure. En fait, dans cette section, ce que je vais faire là... Non, en fait, du coup, on n'a pas du tout quelques pendules à remettre à l'heure. On a une grosse pendule à remettre à l'heure. C'est celle de la performance personnelle. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous en parler à cet épisode? C'est parce que j'ai pas mal scalé, à titre personnel disons, ces trois derniers mois. Donc ce trimestre a été très fructueux pour moi, tant en termes de sport qu'en termes physique, mental et la boîte Kodak. On a un peu inversé la tendance et ça risque de se voir sur le trimestre 4 de l'année. Et notamment parce que j'ai testé pas mal de choses à titre personnel pour essayer d'être un individu plus performant. Et donc je me suis pas mal remis en question, j'ai testé beaucoup de choses, donc je voulais vous faire un épisode depuis quelques temps sur ce fait-là. Donc comment est-ce que tu t'optimises en tant que personne. Et donc, je voulais vous parler un petit peu des objectifs personnels que je m'étais fixé au début du trimestre 3, ceux que je vais me fixer pour pour le trimestre 4. Et je vous conseille d'en profiter, vu que c'est la fin du trimestre, pour le faire aussi. Vous fixez des objectifs à fin décembre. J'aime beaucoup l'échelle du trimestre, parce qu'elle est à la fois long terme, mais quand même, un trimestre, c'est pas très long, c'est 13 semaines. Donc ça passe vite. Donc profitez-en pour faire des choses. Et après, l'échelle importante, c'est la semaine, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Voilà. Ensuite, je vais vous partager le meilleur contenu que j'ai consommé cette semaine. Je crois que j'en ai deux. Je descends mes notes pour voir. Ouais, j'en ai deux. J'en ai deux. Et bah voilà, on terminera là-dessus. Et puis après, bon, vous connaissez la musique, hein, la FAQ. Pour poser vos questions, ça se passe sur theo.le.lyon. Sur Instagram, avec un petit hâte devant pour me trouver. Tous les samedis, je poste un petit sticker là pour vous demander vos questions, vous en poser, et j'essaie d'y répondre au max. Voilà pour le récap. Maintenant, on peut rentrer officiellement dans cet épisode après 8 minutes. Mes intros sont de plus en plus chirurgicales. J'espère que vous appréciez, parce que ça me demande des efforts quand même. J'ai envie de partir en couille à peu près toutes les étapes. On commence avec l'actu. Bon, ouais, j'ai noté beaucoup de points. Ça va peut-être être un peu déstructuré, mais on va voir. On commence avec... je commence par laquelle? Tout en haut, en fait, de ma liste, si vous voulez savoir, il y a marqué Cédric Doumbé. Je ne sais pas si j'ai envie de vous parler de Cédric Doumbé tout de suite, si je commence par une autre, mais bon. Allez, c'est dans l'ordre. On commence par Cédric Doumbé. Donc, nous sommes dimanche. Nous sommes le lendemain de la victoire de Cédric face à Jordan Zebo, qui était un excellent combat, qui a duré 9 secondes, qui s'est soldé par un chaos terrible. Moi, j'ai passé un très bon moment en tant que fan de MMA que je suis depuis de longues années. Et j'ai beaucoup aimé cette soirée-là, à plusieurs égards. Parce que vous savez, mon cerveau était actif en même temps que je regardais les patates distribuées. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu deux, ça a suffi. Et deux au sol, je crois. Il y a mis un peu de ground and pound quand même. C'est plutôt des hammer fist d'ailleurs que du ground and pound. Ground and pound, c'est quand il y a des phases au sol. Bref, là, c'était pas une phase au sol, puisqu'en fait, il était KO. Il faisait dodo. Jusqu'il la termine. Bon, bref. Pourquoi est-ce que c'est stylé? Pourquoi est-ce que Cédric Doumbé est en train de nous faire une petite masterclass? C'est pas juste d'un point de vue communication. Ce qui est génial avec Cédric, c'est qu'il a compris que pour vendre un combat, il fallait créer l'histoire qui va avec. Et pas juste faire du bruit sur les réseaux sociaux, je vais te défoncer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, j'ai pas forcément une idée du niveau de connaissance que vous avez du MMA. Donc, pour les explications qu'il va falloir que je donne, donc dans le doute, je vais parler comme si vous connaissiez rien. Donc, Cédric Doumbé, c'est un ancien champion du monde de kickboxing, donc pied-point, qui s'est mis au MMA il y a 2 ans maintenant, je crois, qui a fait quelques combats, pas beaucoup, 4 combats. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a vraiment fait des choses assez impressionnantes en termes de victoire au kickboxing et sur des fédérations avec des tueurs, quoi. Il a combattu des gens qui sont des assassins, il les a brûlés. Il a eu quelques défaites quand même aussi, hein. Donc, il est arrivé au MMA assez récemment, et donc forcément, quand tu arrives au MMA et que tu viens d'un sport debout, tu dois apprendre la chose la plus dure, c'est le sol. Le sol, c'est deux choses, c'est la lutte et le jujitsu, en fait, globalement. Bon, le reste sont des variantes, hein, un peu de tout ça. T'as le sambo, par exemple, qui est un art martial russe. Et donc, ça en fait à la fois quelqu'un qui a un gros background, une grosse confiance en lui, qui l'a fondé sur un sport qui n'est pas celui qu'il pratique aujourd'hui, donc le MMA. Donc ça en fait le candidat parfait pour de la hype, parce que tu sais que c'est un grand champion, mais à la fois les gens se demandent s'il va pouvoir délivrer sa promesse, parce qu'il n'a jamais prouvé qu'il était bon au sol, et tu sais qu'en fait au MMA, si tu ne deviens pas bon au sol, tu finis toujours par te faire punir. Donc ça fait qu'il y a une quête qui est intéressante. Donc ça, c'est la quête globale. Donc est-ce que le champion du monde de kickboxing, Cédric Doumbé, réussira à devenir champion du monde de la plus grande fédération à l'UFC? Enfin, qui est l'UFC, dans sa catégorie. Sachant qu'il n'est pas encore à l'UFC, hein, il est au PFL, qui est une autre fédération. Ensuite, donc ça c'est pour l'histoire globale, Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, c'est en plus un showman qui sait extrêmement bien vendre les combats, qui sont un peu ce qu'on peut assimiler à des épisodes d'une série, ou alors les chapitres d'un bouquin. Chaque combat, il va créer une histoire. Donc, par exemple, là, il a affronté Jordan Zebo, qui est un très jeune combattant, qui n'avait pas beaucoup d'expérience de combat. Il a vendu le combat d'une façon qui était très intéressante. Il a déjà choisi le combat, parce que, je fais une petite pause, que vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je vous parle de MMA. C'est parce qu'en fait, c'est du marketing. C'est la version, c'est du marketing 101, c'est une masterclass en fait de storytelling, et vous pouvez vous rendre compte de si vous voulez capter l'attention de quelqu'un, il suffit de faire comme Cédric Doumbé. Donc je reprends. Jordan Zebo, c'est le poulain de Fernand Lopez. Fernand Lopez qui a des antécédents avec Cédric, puisque je crois, je ne sais pas ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Fernand a été le premier entraîneur, enfin, l'un des premiers entraîneurs de Cédric. Ça ne s'est pas très bien passé. Ensuite, il y a une histoire comme quoi, bon, voilà, Cédric aurait baisé l'ex-femme, du coup, maintenant, de Fernand. Donc, vous voyez déjà, il y a de quoi faire une histoire dans les médias. Et donc, il a réussi, en fait, à tourner le combat, pas contre Jordan, mais contre Fernand Lopez. Et vous l'avez vu à la fin du combat, il lui met une petite punchline en disant d'ailleurs, il battait sa femme, je sais pas quoi, ce qui était d'ailleurs un peu trop, je trouve. Il avait déjà gagné, il a un peu réglé ses comptes. Ça ne servait pas à grand-chose, je trouve, cette phrase-là. L'histoire était déjà remplie. Et donc, il a passé son temps à trash-talker. Et vous savez, il a des formules où il se fout de la gueule de Fernand Lopez, le fameux « sympa à force » et « angle mort ». Je sais pas, je vais avoir un peu de mal à le prononcer. Et donc, il se fout de la gueule de Fernand Lopez. Il a réussi à faire en sorte que tout le monde se foute de sa gueule. Et après, il a rajouté la fameuse formule « Jordan, t'es mort ». Qui a été reprise sur les réseaux sociaux par tout le monde et même dans l'arène le jour même. Et donc il a réussi à faire en sorte que ce soit pas une opposition contre Jordan, mais une opposition contre Fernand, ce qui est génial et ce qui est super. Parce qu'imaginez s'il avait choisi un combat contre un autre adversaire. Première chose, imaginez l'adversaire parle pas français. C'est le cas de beaucoup des adversaires qu'il a affrontés dans le passé. Tu peux pas faire ton trash talking, c'est compliqué. Le Jordan t'es mort, ça marche, mais ça marche moins bien pour le public français. Seconde chose, s'il avait affronté un autre poulain dont on connaît pas l'entraîneur, ça aurait été plus dur de construire une histoire. C'est un petit peu d'ailleurs l'histoire qui avait été reprise pour les connaisseurs entre Cyril Gann et Francis Ngannou quand ils s'étaient affrontés à l'époque. C'est-à-dire que Francis était aussi entraîné par Fernand Lopez, il était parti et Cyril Gann était toujours entraîné par Fernand Lopez, et donc c'était un petit peu le règlement de compte. Les deux s'entraînaient ensemble, ça fait une super histoire. Et c'est ça qui vend des combats. Donc la leçon de la masterclass qu'a fait Cédric, c'est que il sait construire des histoires qui te donnent envie de connaître la fin. Et en fait, la fin, c'est quoi? C'est le combat. Donc d'acheter le pay-per-view. Bon, là, c'était en clair. Je pense que RMC a compris qu'on était plus dans une phase de décollage du MMA que dans une phase de monétisation. Donc ils ont compris que Cédric, c'était le poulain qui allait faire connaître le MMA en France. Même si on a déjà énormément de gros combattants, mais c'est lui qui peut vraiment l'amener au grand public, je pense, aujourd'hui, dans tous les candidats qu'on a. Merde, j'avais une dernière chose à dire sur Cédric. Oui, Cédric, c'est quelqu'un aussi qui commit. Donc en fait, le storytelling qu'il a, lui, en tant que combattant, c'est le même que celui de Conor McGregor. C'est « je vais tous vous enculer, je vais t'enculer à tel round, avec telle patate ». Et là, il l'a fait. Il a dit qu'il allait dormir, l'adversaire. Le mec a dormi, en 9 secondes. Mais vraiment dormi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a plein de façons de gagner un combat d'MMA. Hein. Tu peux gagner par soumission, tu peux gagner à la décision, tu peux gagner par technical knockout, donc c'est-à-dire la personne se défend, mais tu le termines au sol et l'arbitre arrête le combat. Non, non, non. Là, il l'a fait dormir. C'est pas tous les combattants qui dorment. Hein. C'est une fois sur 100. C'est monstrueux. Ça veut dire qu'il a vraiment frappé très fort. donc, ce qui est génial, c'est qu'il a dit il va se passer ça, et il s'est passé ça. Donc, tous les combats d'après, quand il va dire il va se passer ça, et qu'il se passera ça, ou pas d'ailleurs, et ben, les gens vont regarder pour savoir s'il va se passer ça. Et ça, c'est génial. Et il y a d'autant plus de respect pour une personne qui a dit qu'il allait faire quelque chose et qu'il l'a fait. Ça, c'est d'ailleurs un très bon conseil corporate. Hein. Si vous voulez monter très très vite dans une entreprise, vous faites ce que vous avez dit que vous allez faire. C'est aussi simple que ça. Et donc du coup, c'est pour ça que les gens maintenant vont faire attention à Cédric Doumbé. Je parti un peu loin, je parlais combien de temps de Cédric là? Ok, bon, 5 minutes, ça va. Je prends une petite gorgée d'eau et on passe à l'actu suivante. Donc vraiment, regardez Cédric, ne serait-ce que pour vous instruire en storytelling. Ensuite, le Dexascan. Bon, on va refaire un peu l'histoire. Il y a 9 semaines, je me suis fixé l'objectif de faire tous les trucs que je vous avais dit avant. Là, je vous ai déjà d'ailleurs rappelé les critères, enfin les tenants, composants du challenge. Je devais venir confirmer les beaux progrès faits de façon physique, parce que j'ai pris des photos avant-après, elles sont d'ailleurs disponibles sur Instagram dans ma story à la une. Non, il y a une différence. Donc c'est la première chose, progrès physique, ensuite progrès en poids, j'ai perdu 2,5 kg, et les progrès en performance, j'ai gagné de la force. J'ai soulevé des poids que je n'avais jamais soulevé, notamment, donc j'ai noté mes records sur Instagram, j'ai soulevé 100 kg sur 3 reps au développé couché, j'étais très content, pour un poids de corps à 82,5 kg. Donc c'est honnête, c'est pas de la grosse force, mais c'est des trucs que je n'avais pas soulevé au début de la préparation. Et donc là, je me pointe au Dexascan, qui est un scan de masse grasse, hein, que j'avais fait il y a 9 semaines pour choper ce premier chiffre de démarrage de 16,5 kg, en me disant, bon, je pense que je peux faire les 12. Tu vois, si tu fais les calculs, en fait, quand tu fais 84 kg, 1% de masse grasse, c'est quoi? C'est 840 grammes. J'avais perdu quasiment 3 kg, en fait, par rapport au moment où j'avais vraiment fait le Dexascan. Donc, hop, 1,6, 2,4, 3,2, c'est quasiment 4% de masse grasse, un peu moins. Donc, je suis à 16, je peux flirter avec les 12. Donc, je me dis, bon, ok, je vais peut-être faire 13, ça va aller, ça sera encourageant. Je passe dans la machine, je tombe sur un médecin, du coup radiologue, exécrable, mais mal poli. Le mec, il se pointe, donc j'attendais la salle d'attente, et je vois, donc juste avant d'aller passer sur le scan, il me dit pas bonjour, il pointe du doigt le scanner, en mode, rentre dans la pièce, va faire le scanner. Et bon, donc moi, je réponds pas, je réponds jamais au truc comme ça, parce que tu vois que le mec est insupportable, donc il finit par me dire, il faut aller faire le scanner, monsieur. Le mec est insupportable, bon, bref, il parle très antipathique et tout. Il fait le scan, je sais pas si vous voyez, quand le scan, je vois très bien, le scan ça dure 10 minutes, tu vois, 5-10 minutes, où il faut vraiment pas bouger. Donc tu bouges pas, je vois très bien que le scan s'arrête, et ce bâtard, il attend une minute avant de me dire que je peux bouger. Il sait très bien que c'est chiant. Donc trou du cul, et à la fin il finit par me dire quoi? Vous avez bougé l'épaule. Donc dans ta tête tu dis en fait bon bah le test est foutu etc, il me dit mais non mais ça va quand même bon, enfin en gros il me fait comprendre que le test va quand même être lisible, donc il me donne pas directement les trucs, bon bah, il se casse comme une grosse merde, je reviens à l'accueil, je chope la feuille là en me disant que bon je vais quand même peu importe bouger l'épaule, c'est pas ça qui te faut sans test, et je regarde et je découvre 16,1% de masse grasse. J'y croyais tellement pas. Je sais pas si vous imaginez pas. J'avais tellement le seum de voir ce truc-là. J'y ai pas cru, je l'ai regardé 4 ou 5 fois. Ça veut dire qu'en ayant perdu 3 kilos, là, 2,5 kg, la machine, apparemment, m'aurait dit que j'ai perdu que 0,4% de masse grasse. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, mes premiers réflexes, c'était d'aller chercher ouais, qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui peut fausser un Dexascan, etc. Et puis, j'allais le faire et je me suis dit, bon, en vrai, on s'en fout. j'ai très fort envie de rager. Je me suis dit, bon, je suis très content de ce que j'ai accompli. Les métriques sont bonnes. Je me suis donné, j'ai fait les entraînements, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. Finalement, est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que j'ai bouffé avant? J'avais pas bouffé la dernière fois. Ok, est-ce que j'ai bougé? Je sais pas quoi. Est-ce qu'il a pris le bon poids pour calculer le truc parce qu'il y avait marqué 85 kilos sur la fiche? Enfin, j'en sais rien. Peu m'importe. On va passer à autre chose. Et donc, j'ai choisi de ne pas paniquer ma journée. Je suis quand même allé célébrer avec ma famille derrière, mais ça a été un petit coup dur qui m'a fait chier. Donc, le challenge va quand même poursuivre de façon encore plus intense. je vais toujours le documenter sur Instagram. Vous avez l'air de bien aimer d'ailleurs. Merci beaucoup, sympa à force, pour que vous me donnez sur Instagram. Le but, ça va être cette fois-ci d'incorporer le running dans ma routine. Donc, le but, c'est de faire 4 séances de salle, 4 séances de running. C'est une intensité que je suis capable de tenir. Je pense que c'est dans mes capacités. J'ai presque réussi à la tenir la semaine d'avant. Ça passe assez bien. Continuer à faire du déficit calorique. C'est pas parce que j'ai pas eu le bon truc au Dexascan que je vais arrêter. La méthode, elle marche, elle est mathématique. Et mieux dormir. Vous allez voir que c'est un des trucs sur lesquels je peux certainement progresser. Voilà pour le Dexascan. Troisième chose. Je vous avais parlé la dernière fois de la méthodologie. Trouver les problèmes, pas les solutions. C'était ça la pendule que je remettais à l'heure. Donc, c'était des premiers tests qu'on avait commencé à faire, que j'avais commencé à faire d'ailleurs plutôt, sur comment raisonner dans la résolution la mise en place d'un plan d'action plutôt, en partant des problèmes, en passant, si tu as une heure à passer sur un plan d'action, on passe 50 minutes à trouver c'est quoi le problème et 10 minutes à prioriser les actions. Et donc, c'était la méthode des 5 pourquoi notamment, vous vous souvenez, quand tu demandes 5 fois pourquoi sur un problème, normalement tu arrives à la cause profonde. Et bien là, je l'ai testé puisque ça tombait très bien, c'était la semaine en fait où on fait les objectifs trimestriels avec Kodak. Donc je l'ai testé avec les membres de mon équipe et franchement, si tu es prêt à passer outre le fait que ça fait une vision un peu négative de la réalité puisque tu as l'impression que tout est problème et que tout, rien ne va, et bien franchement, tu découvres des trucs de ouf. Parce que les gens t'apportent des informations que tu n'as pas et surtout, le vrai bénéfice, c'est quand tu as une discussion avec quelqu'un, c'est beaucoup plus agréable de discuter, enfin de l'aider à comprendre son problème que de discuter des actions. Parce que quand tu discutes des actions, finalement, tu lui dis « Bon, toi, tu veux faire ça. Moi, je te conseille de plutôt faire ça. » C'est pas très autonomisant, en fait. Tu arrives en disant « Bon, je suis là pour t'aider à choisir quoi faire, mais aider... » Finalement, il y a une seule personne qui choisit ce qu'il faut faire ou pas. Et c'est souvent la personne qui a le plus de responsabilités dans la boîte, quoi. Donc, ça va finir par être moi. Et c'est chiant. Ce qui est super quand tu discutes des problèmes, c'est que tu donnes ton cerveau sur les problèmes et ensuite, tu laisses la personne en face de toi, qui normalement, chez Kodak, on a que des gens qui ont des cerveaux bien faits. Normalement, la personne, elle est capable derrière de trouver un plan d'action. Donc, c'était super agréable. Je vous recommande vraiment. Et donc, on a un peu changé la façon dont on faisait les OKR. C'est-à-dire qu'on a les OKR, c'est notre méthode pour fixer les objectifs trimestriels. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. C'est-à-dire qu'on a mis des OKR en mode toujours aspirationnel. On ne les change pas. Donc, devenir, la référence, je ne sais pas quoi. Mais dedans, au lieu de mettre des KR, donc des actions, on a mis des problèmes. On a mis, il y a trois problèmes qui nous empêchent, par exemple, d'avoir plus de clients. Et là, tu peux commencer à dire, pourquoi ? Et le premier problème, c'est que j'ai qu'un seul canal d'acquisition, je dis de la merde, hein, c'est pas ça, mais vous avez compris. Et là, tu notes tous tes problèmes, et toutes les semaines, pendant nos points de suivi, on choisit quel problème est prioritaire et lequel on traite. Et du coup, ça te permet d'être hyper focus. Cette semaine, je taffe sur tel problème, qui parfois peut prendre plusieurs semaines à résoudre, mais j'y crois beaucoup dans cette méthodologie, et je continuerai à vous donner des feedbacks dessus pour savoir si ça fonctionne. Ça me donne beaucoup plus de clarté sur ma boîte aussi. J'ai l'impression d'avoir capté où sont les bloqueurs à chaque fois, qui ne sont pas très compliqués finalement. C'était la troisième actu. Il m'en reste encore trois. Oh là 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 là. Parce qu'après, je peux vous dire que la partie performance personnelle, la fiche Notion est longue. Bon, ça va peut-être être le plus long des épisodes de Rototemion. Bon, alors, on continue. Actu numéro 4. Donc, lundi dernier, nous avons fait la troisième édition des Kodak Nights. Les Kodak Nights, c'est quoi ? C'est une réunion entre des marques e-commerce qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un cadre atypique pour une activité atypique elle aussi. Cette semaine, nous avons décidé de le faire, enfin ce mois-ci plutôt, parce que c'est un événement mensuel, au Ritz à Paris. Donc, on a refait un petit cours de cuisine. Pour le coup, il était végétarien, même si je crois qu'il n'y avait pas de végétarien. Finalement, j'ai eu des désistements des végés. Donc, tout le monde a bouffé des putains de plantes. Mais c'était très bon, en vrai. Donc, on a fait un petit cours de cuisine. C'était super sympa. Et il se passe un truc. Et je pense que c'est la ligne directrice que je vais donner à tous les événements d'après. Quand tu dis le Ritz, les gens viennent. Ah, le Ritz, tout le monde connaît le Ritz. Tout le monde respecte le Ritz. Et ça a fait un... Même dans les photos et tout qu'on a prises, etc., postées, ça te met dans une dimension un peu « Ah, putain, Kodak, ils font des trucs au Ritz. » Ok, ouais, d'accord. Ok, ils sont peut-être en remote, mais ok, c'est pas mal. Et j'ai vu aussi sur Instagram, je citerai pas de nom, que le concept nous a très très vite été volé. Du petit comité, petit dîner, endroit sympa, etc. Bon, après, on l'a pas non plus caché qu'on faisait ça et on n'a pas inventé la poudre. Hein. Mais le concept dîner petit comité, enfin repas petit comité dans un environnement sympa, voilà, bon, vu les gens qui ont repris. Donc super, ça s'était très bien passé et franchement, je vous recommande si jamais vous montez une boîte en B2B, enfin un business qui est basé sur l'humain, essayez d'avoir des tout petits événements, des trucs où le but c'est pas de ramener le plus de personnes, mais qui vous permet vraiment de discuter et de faire discuter les gens entre eux. Vous êtes un petit peu l'entremetteur. Parce que ce qui est stylé, c'est que les gens derrière, ils se revoient, etc. Et ils se disent, ah putain, enfin, toute leur vie, ils se sont rencontrés à un événement Kodak. Ça, c'est cool. Voilà, donc super soirée au Ritz qui sera documentée. Je crois que j'ai un petit Reels qui va sortir. Non, les photos sont déjà sorties sur Instagram, à Théo Lulion. Ensuite, je vous ai noté quoi ? On clôture, oui, un super mois d'août. Alors, super mois de septembre, pardon, d'un point de vue sales. C'est super parce que franchement, on a charbonné comme des porcs. Et ce qui est stylé, c'est qu'on n'a pas juste fait un bon mois d'août parce qu'on a eu plus de leads. En fait, on n'a pas eu même beaucoup plus de leads que l'été. Mais notre taux de closing a explosé. Vous savez, c'était le sujet cata chez Kodak, les sales. C'est vraiment toujours été le truc sur lequel on était mauvais. Et là, on a foutu toutes les ressources de la boîte sur un seul truc, c'est les sales Kodak. Et notamment, ce qui s'est passé en second call, donc la restitution d'audit, qui n'était pas au niveau, quoi, simplement. On donnait pas assez de choses, c'était pas structuré, il n'y a pas de process, etc. Donc, je vous donne les chiffres. En juillet, on avait 14% de taux de closing. Ça, c'était explosé. Donc, ça, c'était en plus avec l'été, etc. Donc, 14% seulement des deals sur lesquels on a obtenu une réponse étaient une réponse positive. 13% en août. Et en septembre, 60%. Donc, ça n'est pas une affaire de saisonnalité. C'est une affaire de taux de closing. Donc, on a été en moyenne 4 fois meilleur. Sur des volumes qui, en plus, sont plus gros parce que c'est septembre et c'est une saisonnalité positive. On a signé 206 000 euros. Ce mois-ci, de valeur mensuelle. Bon, c'est pas que sur Kodak, ça c'est le chiffre global. J'ai pas celui de que Kodak sous les yeux là, et ça se prendra un petit peu de temps d'aller le choper. Donc, je suis super content. Je suis vraiment super content qu'on ait craqué ce sujet parce qu'on se faisait mettre à l'amende sur pas mal d'appels d'offres. Ça faisait chier. Ça faisait chier parce que voilà, on n'a pas compris. Longtemps en fait, on a foutu le truc au fond du placard. On a commencé à bosser dessus en août. Septembre, ça a commencé à payer. C'est cool. Et là, on n'a pas terminé de travailler dessus. On fait vraiment maintenant des roadmaps, donc des restitutions d'audit qui sont top, 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 top level. Je veux dire, pas, on se dit, on les crée pour que les prospects, ils voient 4 audits, il n'y a que la nôtre qui retienne en fait. Ils se disent, mais les autres, ça ne joue même pas dans la même cour. Donc on a mis tous les efforts dessus, tout le monde. Il y a un nombre de personnes impliquées dessus qui sont ouf, on a tout structuré et je suis super content. Parce que franchement, ça n'a pas été facile. Et j'ai compris d'ailleurs à quoi servait un process. Je vous explique. Pour faire une roadmap, donc un audit, ça peut vous paraître très simple. Donc en gros, tu te branches sur les accès de ton client, tu lui fais des recommandations sur son compte. Les gens pensent que c'est ça. Sauf que, avant, il y a un R1, donc un premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous, tu peux malheureusement pas le faire faire par un consultant, parce qu'il a des trucs à faire, il a des consultants à gérer. Donc ça doit être un sales. Ce sales, il doit faire passer toutes les informations qu'il a dans le premier call au second call, pour être sûr qu'on réponde bien aux questions du prospect. Ensuite, il faut se plugger sur le compte publicitaire. Il faut tout analyser. Il faut avoir des bonnes idées. Parce que tu peux pas standardiser non plus une réponse à un appel d'offres. Donc, tu dois foutre tous les plus gros cerveaux de ta boîte dans une pièce. Pas eux qui vont faire le PPT que tu vas présenter. Il faut qu'ils puissent trouver des idées. Sachant que tout ça doit être fait dans un délai qui est court, qui est 15 jours. Nous, on va répondre sous 15 jours. Avant, donc ensuite, tu dois faire quoi ? Tu dois préparer la roadmap. Tu dois faire intervenir plusieurs personnes, parce que parfois, il y a de la créa, parfois, il y a du Google, parfois, il y a d'autres trucs, il y a du tracking. Donc, tu dois faire travailler toutes ces personnes-là ensemble pour qu'ensuite, elles puissent aboutir à un document, un PPT, que tu dois faire review. Donc là, tu dois caler une répète à tout le monde. On répète toutes les roadmaps. Elles sont toutes répétées. Et ensuite, là, tu es prêt à présenter. Et tu as 15 jours pour faire tout ça, avec les employés de temps de tout le monde que tu dois faire coller. D'un point de vue opérationnel, c'est un bordel. Tu dois savoir à chaque étape qui est l'owner, donc le responsable du sujet, sans qu'il y ait de problème de qui fait quoi, etc. Tu dois trouver des dispos, tu dois faire en sorte que le contenu soit quali, vérifié, puis revérifié, etc. Donc, c'est vraiment très compliqué. On a abouti à un process qui est léché, aux petits oignons là-dessus, et qui est en train de bien fonctionner. Donc voilà, j'ai un process, en fait, ça sert aussi à ce qu'il n'y ait pas de bordel, parce que ça crée des frictions entre les membres de l'équipe aussi. Parfois, on ne sait pas qui est responsable des roadmaps. Enfin, notamment, je parle de ce point-là parce que la partie ownership, ça crée des frustrations dans l'équipe. Sur une personne qui commence à faire le document, et puis en fait, quand elle le présente au client, elle le termine pas parce qu'elle pense que l'autre personne va finir de s'en occuper, donc c'est pas clair qui est l'honneur, et donc finalement, c'est une personne qui prend dans la gueule alors qu'elle pensait que l'autre le faisait, donc elle a le seum. Et donc voilà, un process, ça sert aussi à garder la cohésion d'une équipe. Il faut processiser. C'était mes actus. 30 minutes. Bon, avant de passer à la partie contenu et la partie performance personnelle, je voulais vous rappeler que je tire toujours au sort une personne pour participer à Enlève tes chaussures. Je fais un tirage au sort par mois, parce qu'on fait un épisode d'Enlève tes chaussures chaque mois. Et donc, là, donc pour le mois d'octobre, je prendrai toutes les personnes qui ont mis un avis sur Spotify avec leur épisode préféré, hein, c'est ça souvent standard, vous mettez le nombre d'étoiles que vous voulez, 4 ou 5, surtout 5, et vous mettez votre épisode préféré pour que les gens qui découvrent le podcast aillent écouter celui-là en priorité, si votre commentaire apparaît. Donc tous les gens qui ont commenté là-dessus, un peu compliqué. Donc, en gros, sur Spotify, il faut mettre la note et me l'envoyer sur Instagram, @theo.le.lyon, pour se faire sélectionner. Parce qu'il y a pas, est-ce que les commentaires sont pas visibles, et sur Apple Podcast vous avez juste à mettre un commentaire là pour le coup je l'ai regardé. Donc je tire une personne au hasard derrière. J'ai tiré une personne la dernière fois qui va assister au prochain Enlève ses chaussures, c'est réglé, et celui d'après, croyez-moi, vous voulez y assister. C'est avec deux stars de YouTube. Enfin stars. Des bons gros influenceurs mecs qui font du sport. Voilà. Donc, c'est le moment aussi de faire un petit bilan sur où est-ce qu'on en est des chiffres de ce podcast, parce que j'aime bien vous build in public ce format aussi. Donc, on est à 36 400 écoutes. C'est pas mal. Vous allez voir que j'ai dépassé mon objectif trimestriel que je m'étais fixé. Je suis très content. On est à 223 notes sur Spotify et 51 sur Apple Podcast. Donc, ça, déjà, c'est inadmissible. C'est inadmissible d'avoir 4 fois moins de notes sur Apple Podcast que sur Spotify. Si vous écoutez sur Apple Podcast, visiblement, vous m'aimez moins. Merci. Donc, bref, allez mettre une note. Les potes, on se met un objectif d'avoir 1000 notes avant la fin du trimestre. Et c'est pas 1500 Spotify, 500 Apple. C'est 1000 sur les deux. Avec la croissance qu'on a en vrai en termes d'écoute, les chiffres sont très très bons. C'est largement atteignable. Donc s'il vous plaît, la moindre des choses, vous n'avez même pas besoin de mettre de commentaires. Là où vous en êtes, en plus, vous avez écouté quoi, 30 minutes du podcast, même si c'est le premier que vous écoutez, Spotify va vous laisser mettre une note. Et Apple aussi. Donc mettez une note. Et voilà, et petit point de classement aussi dans les charts, où est-ce qu'on en est ? On est définitivement, les amis, installés dans le top 10, catégorie entrepreneuriat, qui va être mon premier challenge. Donc mon premier challenge, il est très simple, c'est de faire arriver ce podcast en première position. Hein. Il y a d'autres positions que la première place qui existent ? C'est vrai ? Ouais. Non, je ne connais pas. Bon, il y a quand même des vrais clients dans cette catégorie. Hein. Notamment, Oussama Yomi en première position. Il y a aussi Mathieu Stéphanie avec Génération Do It Yourself qui est un sérieux contender. Donc ces gens-là, mais on peut les battre. Hein. Vous savez que quand il y a un épisode qui fait une grosse performance, on peut vous mettre devant sans que vous ayez forcément plus d'écoute. C'est pour ça qu'il y a des petits newcomers qui parfois arrivent. Donc le process est très simple. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est continuer d'écouter les podcasts. Merci, je vous aime. Et aller mettre une note, c'est la moindre des choses. Voilà, c'était pour la pub. Les contenus qui sont sortis cette semaine et qui vont sortir. Je vous ai sorti un petit extrait sur Road to 10 Million de mon échange avec le Raptor. Notamment quand on a parlé d'Andrew Tate, il est disponible, si vous voulez. Donc ça change un petit peu de d'habitude. Je sais que ce n'est pas ce que vous venez chercher dans Road to 10 Million, je voulais quand même vous en poster un petit, ça sort le 13 octobre. On a déjà enregistré. On a sorti aujourd'hui même le premier épisode de la saison 2 d'Enlève tes chaussures avec Alexandre Mullier. Alexandre Mullier, c'est l'ex-vice-président France d'Auchan. Donc Mullier, c'est le nom de... Ça vient de Gérard... Bon, il y a eu des Mullier avant lui, mais c'est très connu notamment pour Gérard Mullier, qui est le fondateur d'Auchan. C'est la famille du Nord. Et il a racheté le club de Versailles. Donc il nous a parlé de ces deux sujets dans Enlève tes chaussures. Vous pouvez aller le voir, c'est disponible sur YouTube. J'ai 3 vidéos qui vont sortir cette semaine. Ça va être très prolifique, notamment parce qu'on a décalé pas mal de trucs, parce qu'on a dû rajouter des partenaires au dernier moment, donc des petits sponsors qui nous permettent de financer ces vidéos. Donc on va sortir la vidéo sur qui est le tapis du 21e siècle. Si vous êtes un bon auditeur de ce podcast, vous savez quelle est la réponse. Mais vous allez voir que j'ai un peu changé des trucs dans la démonstration. J'ai rajouté des points, des extraits, et tout, etc. Franchement, vous vous ennuierez pas. On va aussi sortir une vidéo aussi issue, disons, d'une idée que j'avais eue dans le podcast. C'est sur Naval et le cinquième levier, qui va s'appeler Naval s'est trompé. Et enfin, on va sortir une vidéo top funnel. Dimanche prochain, donc je pense que je vous en reparlerai dans le prochain épisode, qui s'appelle 6 vérités contre-intuitives sur l'entrepreneuriat. Donc ça, pour le coup, c'est du inédit. On passe à la partie performance personnelle. C'est l'heure de prendre une gorgée d'eau à 34 minutes de RTTM. Ah putain, j'en ai renversé sur moi. J'ai ma chemise en plus, parce que pour l'hôtel Mapouf, là, vu que c'était un truc de défilé Fashion Week, il y avait marqué sur l'invitation « Venez en bombe » ou quoi, genre « Venez en mode Fashion Week ». Ça, c'est une phrase qui fait paniquer un mec. Hein. Moi, j'ai pas d'habit de Fashion Week. j'ai une chemise et j'ai des chaussures un peu habillées, quoi, genre des chaussures de costard. Mais je sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas l'impression que c'est ça que ça veut dire Fashion Week. Bon, il se trouve que ça va. Donc, je dis on parce que j'y suis allé avec Jules du coup de Netcord. Bon, ça va, on était dans le dress code, donc j'ai mis petite chemise blanche, petit pantalon, chaussures et casquette. Et je me suis même permis une petite casquette et ça va, c'est pas crème. Ça m'a fait flipper. Donc là, j'ai une putain de chemise alors que je mets jamais de chemise. Jamais je mets de chemise. C'est un petit truc. Bon, putain, on s'en bat les couilles en fait. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a une tache d'eau sur ma chemise. Introduction à cette partie performance dont j'ai envie de vous parler. Je vais m'asseoir bien quand même pour vous la faire celle-là. Et pour que ma voix porte. Hop, on rapproche la table. Je pose mon ordi et je me prépare pour la messe. Donc, les amis, vous savez très bien qu'une entreprise, donc une boîte, c'est deux choses. C'est une somme de décisions fois le travail associé à chacune des décisions. C'est tout. Tu prends la décision de racheter une boîte. Non, bon, je ne sais pas si ça raconte mon exemple. C'est pas un très bon exemple que j'avais trouvé, mais vous comprenez en fait très bien. Quand vous décidez de faire quelque chose, ça peut être une excellente décision si vous ne travaillez pas beaucoup dessus pour la délivrer. C'est de la merde. Et si vous travaillez comme un sourd, mais sur une décision de merde, bon bah ça ne marche pas non plus. Et puis après, bon, tu pourras rajouter le facteur chance, souvent. Mais la chance, on ne peut pas jouer dessus. Donc en fait, finalement, je ne vais pas le mettre dans une rubrique personnelle. Donc ça veut dire qu'il n'y a toujours que deux facteurs sur lesquels tu peux jouer. Soit tu deviens plus smart dans les décisions que tu prends pour ta boîte, parce qu'en fait, c'est toujours ça. Hein, c'est une somme de décisions au bout d'une dizaine d'années. Finalement, une boîte n'est rien de plus que la somme de décisions prises par les individus qui la composent. Et tu peux apprendre à mieux travailler ou travailler plus, qui sont les deux façons. Voilà, de leverager une bonne décision. Donc, toutes ces décisions voilà, sont prises par des humains. Et ces humains, en fait, ils ont des vies, ils ont des cerveaux. Et leurs cerveaux, ils ne sont pas divisés entre vie perso, vie pro, hein, malheureusement. C'est très, très rare d'avoir genre ta vie qui tombe en ruine et ta boîte qui va bien. Ça n'arrive pas souvent. Ça, vous pouvez vous en rendre compte très facilement quand vous vous embrouillez avec votre meuf. La journée que tu passes au taf le lendemain, souvent, elle n'est pas ouf. Ou juste quand tu as mal dormi, par exemple, ça marche aussi. Ça a un impact direct. Donc en fait, finalement, il y a plein de choses que tu peux faire dans le perso qui te donnent un edge de ouf dans le pro. Donc à l'inverse, quand tu as fait ton sport, ou alors que tu bosses sur un projet par lequel tu es vraiment genre, super passionné, quand tu as tes proches qui t'encouragent, quand tu bosses avec un pote au travail, tu vois, genre, ça c'est des choses qui ne sont pas directement liées à ce que tu fais, mais qui peuvent t'aider à mieux performer. Donc là, ce que je vais essayer de faire dans cette partie, c'est imaginer qu'il y a énormément de leviers. Enfin, je vous demande d'imaginer qu'il y a énormément de leviers que vous ne maîtrisez pas encore, qui vous permettraient d'être 10 fois plus efficace, mais vraiment 10 fois plus, dans ce que vous faites. Par exemple, si vous dormez très mal, ça pour le coup, c'est vraiment le premier truc auquel je pense à chaque fois, mieux dormir, ça a un impact direct sur la qualité de travail, vous imaginez même pas. Et donc, comme vous le savez, j'aime beaucoup cette citation, c'est que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, et bien le pro, c'est le perso qui remonte à la surface. Et le perso, c'est tout. C'est les relations, c'est le sport, c'est la diète, c'est tout. Et donc voilà, moi c'est pour ça que j'aime pas trop, hein. Vous avez compris le terme work-life balance, parce que c'est pas deux silos séparés, hein. Les deux fonctionnent ensemble. Et d'ailleurs peut-être que je développerai un épisode, je pense, autour d'une théorie que je suis en train de refine dans ma tête, sur plutôt la work-life loop, donc la boucle. Parce que j'ai plus l'impression que ce soit des sprints dans l'un qui te font progresser dans l'autre, qui te permettent ensuite de sprinter dans l'autre et d'avoir un avantage sur l'un. Bref, on ne va pas s'engager là-dedans, ça va être brouillon, encore plus que quand je prépare. Donc imaginez quand c'est pas préparé. Donc, dans cette partie, je vais chercher tous les domaines, j'ai déjà cherché en fait tous les domaines sur lesquels c'est possible d'être meilleur, qui pouvaient me permettre de développer un edge sur ma production professionnelle, toujours avec en tête une seule chose, c'est que le gros de ma journée, ça va être travailler. Donc j'ai pas le temps d'aller faire des retraites de méditation à l'autre bout du monde, on va faire Pareto, donc le 20% qui apporte 80% des résultats. Et donc pourquoi est-ce que je vous fais cette partie maintenant? C'est parce que idéalement, j'aurais voulu arriver en vous disant « Regardez mon bête de Dexascan, j'ai perdu grave de masse grasse. » Et en disant « Bon bah écoutez, voilà, ça sera un peu ma preuve de légitimité, regardez, je me suis scale, etc. » Bon, malheureusement, ce Dexascan, ce chiffre, n'a pas été au rendez-vous. Je vais quand même vous faire l'épisode parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ma vie qu'on ne peut pas m'enlever, enfin ces 3 derniers mois, qui ont changé. Donc le poids, la productivité, etc. Bon, bref, plein de trucs qu'un numéro sur un papier ne remettent pas en question. Et donc, je voulais commencer par vous faire un petit bilan des objectifs que j'avais mis en place sur le Q3. Je crois que j'en avais déjà parlé. Je voulais dire lesquels j'ai atteint, lesquels j'ai pas atteint. Donc, j'avais 3 OKR. J'ai fait aussi la méthode OKR à titre personnel. 4 OKR, pardon. Le premier, c'était atteindre moins de 12% de body fat raté à moins de 82 kilos. Donc là, pour le coup, j'ai été pesé à 81,8, donc c'est rempli. J'avais 4 KR dedans. J'avais soulevé 100 kilos sur 5 reps au développé couché. J'ai pas réussi, j'ai fait 3 reps. J'avais Kerr numéro 2 qui était soulevé 65 kilos sur 3 reps au développé militaire. Ça, pour le coup, j'ai réussi. J'ai même fait 4 reps. Voilà. Ensuite, le Kerr numéro 3, c'était faire 39 séances à la salle sur le trimestre. Ça, c'est largement fait. Et ensuite, j'avais cramé 33 000 calories. Et ça, c'est largement fait aussi. Donc, tout a été respecté dans mes KR. Donc, cet OKR, si j'avais soulevé 100 kilos, aurait été quasiment rempli sans le body fat. Voilà, donc c'était un objectif santé. Vous voyez comment est-ce que je structure mes objectifs et je vais vous présenter à la façon à la fin. Donc entre les deux, je vais d'abord vous présenter mon bilan des objectifs trimestre, puis vous présenter tout ce que je vous recommande et que j'ai appris pendant ce trimestre sur comment être plus productif en quatre catégories. J'ai une catégorie santé, une catégorie sport, une catégorie productivité et une catégorie mindset. Et ensuite, je vous présenterai à partir de ça quels objectifs j'ai fixés pour mon Q4, donc T4 aussi, donc trimestre 4. OKR numéro 2, c'était courir le Paris-Versailles tout court. Et après, entre parenthèses, je m'étais mis un objectif de temps qui était de faire 1h23, donc 5,18 au kilomètre. Ma performance réelle a été 1h26, donc 5,21 au kilomètre. C'était presque. J'avais 3 KR. Le premier, c'était faire 10 séances de MMA. C'est un KR que j'ai dépriorisé puisque j'ai choisi de plutôt me focus sur le running. Je ne suis pas retourné au MMA. J'ai fait que 2 séances sur le trimestre. Ensuite, j'avais courir 18 fois. Ça, pour le coup, j'ai couru même 19 fois sur le trimestre. Et le KR numéro 3, c'était avoir 0 heure de dette de sommeil. Malheureusement, j'ai encore 8 heures de dette de sommeil. Donc, le sommeil, c'est vraiment le truc sur lequel je dois travailler. Et vous allez voir que ça va se retrouver dans mes autres objectifs. Mon OKR numéro 3, c'était avoir redressé le sujet sales, c'est Kudak. Donc, le premier, c'était d'avoir closé 4 roadmaps. On en a closé beaucoup plus que 4, c'est super. Et ensuite, j'avais des KR qui sont devenus un peu plus désuets, disons. Le premier, c'était d'organiser un webinaire qu'on n'a pas fait. J'avais des trucs plus importants, je l'ai déprio. Et après, je m'étais mis un truc sur avoir créé 10 affaires personnellement, donc 10, avoir généré moi-même 10 deals pour Kudak. Malheureusement, je ne l'ai pas bien traqué, ce truc-là. Je n'ai pas mis la source et ça m'aurait pris trop de temps de compter. J'en ai compté déjà 7 ou 8, là. Je pense que je l'aurais atteint, ce KR, mais en fait, c'est un peu un KR de merde. En fait. Finalement, ce n'est pas moi qui dois alimenter l'équipe sales avec mon contenu. J'avais ensuite, KR numéro 4, c'était avoir 6 leads quali qui viennent de mon contenu LinkedIn en septembre. Donc quali, ça veut dire qu'ils passent la phase de screening. Parce que j'avais un peu, sur LinkedIn, j'avais un peu mis le truc de côté. J'en ai eu 5 traqués, donc presque, qui viennent vraiment que de mon contenu en LinkedIn. C'est comme ça qu'on traque. Après, il y a toutes les autres sources. Et KR numéro 5, c'était avoir créé 2 affaires en prospection. Deux affaires. Une affaire, c'est quoi? C'est un lead qui nous dit auquel on fait une proposition. Eh bien, ça n'a pas été fait. On n'a pas bien prospecté. Donc, l'OKR sales, pas ouf. Donc, j'avais un OKR, vous avez compris. OKR santé au début, donc fitness, avec le poids et le body fat. Ensuite, l'OKR running, le Paris-Versailles, qui est un prolongement un peu de l'OKR santé. Et l'OKR numéro 3, qui était sales. Et l'OKR numéro 4, c'était podcast. Donc, je m'étais mis un objectif sur ce podcast, les amis. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà partagé. Donc, je m'étais mis l'objectif de faire 34 000 écoutes. On est à beaucoup plus que ça. On est à combien? Attends, je vous l'ai dit au démarrage. J'ai déjà oublié. 36 000? 35 000? Merde. Où est ma trame? Je crois qu'on va essayer ça. Je vais le retrouver. Bon, vous l'avez certainement en tête, j'imagine. On est à 36 400. Putain. Donc, c'est du sale. Donc, l'OKR, en fait, finalement, a été atteint. Et dedans, je m'étais mis 3 KR. Donc, avoir atteint l'épisode 16, c'est ce qui est chose faite. Vous êtes en train de l'écouter. Alors, sur le fil, on est le 1er octobre, mais ça sort un dimanche. Donc, je m'étais quand même mis l'objectif d'avoir atteint l'épisode 16. Ensuite j'avais mis quoi? J'avais mis avoir fait 3 épisodes avec des invités, j'en ai fait un. C'est pas l'épisode qui vous a le plus de manière dans les chiffres, même si, enfin vous l'avez aimé l'épisode, hein, et ça vous a intéressé, vous m'avez fait des retours, mais c'est pas l'épisode qui a fait le plus d'écoute. Donc je pense que si je veux faire grossir ce podcast, c'est pas la voie que je dois privilégier. Et ensuite j'avais sorti 2 hors-série. J'en ai sorti 2. J'ai sorti ce hors-série avec les invités et le hors-série sur la prépa. Voilà, et donc on a atteint cet objectif pour le podcast. Voilà, donc overall, même s'il y a plein de choses qui n'ont pas été testées, qui n'ont pas été cochées, pardon, il y a pas mal de choses qui en fait ont été dépriorisées. Et je suis quand même assez content de pas mal de trucs que j'ai accomplis. Sur le fitness, je pense que j'ai atteint l'objectif que je voulais. Sur le running, ça y est presque, mais j'aurais pu m'entraîner plus fort. Je ne l'ai pas priorisé assez tôt dans le trimestre. Sujet sales, ça a très bien progressé, mais ce n'est pas terminé. Et le podcast, pour le coup, c'est full rempli. Merci à vous tous. Je bois une gorgée. Donc, maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous allez lire cette partie comme dans l'Odyssée d'Homère. Vous voyez Ulysse, quand il doit, je vais être très imprécis sur l'histoire, mais en gros, à un moment, il doit s'attacher au mât quand il y a les sirènes qui, en fait, lui font des appels de phare pour qu'il saute dans l'eau et qu'il se noie. Donc, à un moment, il doit s'attacher au mât. Ça veut dire qu'il doit combattre ses tendances naturelles. Globalement, progresser, ça veut dire ça. Ça veut dire combattre ses tendances naturelles à rien foutre. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent vous sembler assez cons dans les recommandations que je vais faire, mais qui sont nécessaires si vous voulez un peu step up. Je peux m'agorger. Alors, première partie, santé. Bon, santé, déjà, d'où je partais. Il y a 3 mois, bon, je pense que vous avez capté, hein, de toute façon, qu'il y a quelques mois, donc un peu plus que 3 mois, je me suis séparé du coup de mon ex. Et du coup, forcément, voilà, il y a un petit impact sur ta vie qui est pas dingue et qui a eu sur la santé où tu réalises en fait que tu t'es un peu laissé aller. Donc, je partais de loin, même si j'avais un passé un peu cool quand même. J'ai une bonne génétique de base. Je n'ai pas une génétique de mec qui grossit vite ou que... J'étais en relativement bonne santé, mais j'étais pas là où je voulais être. Donc j'ai commencé par accepter que j'étais pas là où je voulais être. Et donc ensuite, j'ai découvert pas mal de trucs qui m'ont permis d'atteindre ces objectifs que je vous ai partagés juste avant. La première chose, c'est sur la nutrition, donc sur les repas. Donc sur les repas, j'ai essayé de faire le plus simple possible. Je me suis concentré que sur 3 choses. Je voulais que mon total calorique soit en déficit, donc j'ai calculé ma maintenance. Il y a plein de calculateurs en ligne qui vous permettent de savoir combien est-ce que vous devez manger de calories pour garder votre poids. Et ça vous permet du coup de savoir si vous voulez derrière manger plus pour gagner ou manger moins pour perdre. Donc je me suis concentré avec l'application MyFitnessPal, j'ai tout traqué, j'avais déjà employé dans le passé, donc c'était facile pour moi de me remettre dessus. J'ai tout traqué pendant 3 mois, je vais continuer à le faire, ça me prend vraiment 2 ou 3 minutes par jour, donc c'est sans effort, première chose. Seconde chose, je me suis concentré sur mon total de protéines, donc à peu près 2 grammes par kilo poids de corps, un peu moins. Et ensuite, bouffer mes légumes. Alors ça, c'est la partie qui était la plus difficile et que j'ai pris le pli que plus tard, enfin que dans le dernier mois, disons, du trimestre. Et voici comment est-ce que je fais en sorte d'avoir tout ça. Donc la première chose, pour le total calorique, je traque via MyFitnessPal. La meilleure technique, en vrai, c'est si vous êtes capable de prévoir un peu votre journée du lendemain, c'est de mettre vos calories la veille dans MyFitnessPal. Et ça vous permet de savoir si... Enfin, c'est comme avoir un plan, simplement. Et ça ne veut pas dire que le plan va se passer comme prévu. Peut-être bouffer plus ou bouffer moins. Mais tu vas savoir quelles variables vont bouger. Bon, ok, là, je peux bouffer un peu plus. Si je bouffe un peu plus, ça veut dire que ce soir, faut que je prenne pas de dessert. Donc, de toute façon, si vous voulez atteindre vos objectifs fitness, il faut vous imposer un genre de choses comme ça. Faut être prêt à faire des plans. Parce que vous n'allez pas y arriver au hasard. Donc, total calorique comme ça. Ensuite, protéines. Protéines, comment est-ce que j'ai fait ? Tous les dimanches, j'ai pris la petite habitude d'aller à la boucherie. ça paraît tout con. Mais en fait, c'est bon, les produits de la boucherie. C'est pas du tout comme les steaks que tu achètes à putain de Carrefour, là, comme j'avais beaucoup fait. J'ai toujours beaucoup fait. Mais tu t'achètes, je me prends des bavettes, des filets de poulet, des entrecôtes, etc. Donc je me prive assez peu, hein, sur la viande, parce que c'est des viandes, bon, à part l'entrecôte, c'est le mauvais exemple, c'est des viandes qui ne sont pas si caloriques que ça. Donc la viande, c'est franchement vraiment un truc qui est cool et qui comporte plein de protéines. Tu manges du poulet, tu peux vraiment bouffer des bonnes tonnes, de la bavette, même chose, de l'onglet, même chose. Donc je vais à la boucherie tous les dimanches, je tape la petite discute au boucher, il met ma commande, je crois que je lui fais la plus grosse commande de sa semaine, simplement parce que je prends pour à peu près 150 balles quoi, de viande par semaine. Je bouffe comme un gros lard alors que je suis tout seul en plus. Donc voilà. Et pour les légumes, comment je fais? Pour les légumes, il y a quand même 2 problèmes. C'est que ça se cuisine et ensuite c'est quand même pas très bon. C'est quand même pas très bon, donc j'ai trouvé une petite technique. J'ai découvert une marque qui s'appelle Fruitjizz qui vend des légumes et des fruits et légumes lyophilisés, donc c'est une petite poudre, tu prends comme dans un shaker, et qui conserve tous les apports là en nutriments et tout le blabla, les fibres et tout. C'est assez bluffant, j'étais un peu dubitatif au début, et en fait le mec, je le connaissais, il s'appelle Florent, Florent Mallet, que j'avais déjà fait passer dans un podcast il y a quelques temps, et je n'avais pas consommé les produits. Et donc j'ai commandé son truc pour tester, et honnêtement, j'ai plugué ça sur le petit shaker que je me fais après la salle, et... ça passe crème. Je prends ça avec des compléments en plus derrière. Ça passe super crème et ça me fait mes apports. Et franchement, alors c'est un peu dégueulasse. Les amis, on va parler de caca. Je chie beaucoup mieux. Je trouve toutes les fibres. Et c'est la seule façon que j'ai trouvé de bouffer des putains de légumes. Et je trouve ça bluffant. Dieu merci qu'on vive dans cette époque. Après, si vous aimez bien les légumes, cuisinez-les. Moi, je suis pas très bon en cuisine. Quand j'en fais chez moi, c'est toujours de la merde. Décongeler des haricots verts, nique sa mère. Tu vois. Voilà. Alors maintenant, 2 petites choses en supplémentaire sur la partie repas. La première chose, comment est-ce qu'on fait quand on mange dehors? Parce que donc globalement, moi, tous les déjeuners, je les fais à l'extérieur et 1 ou 2 dîners par semaine aussi. Donc quand on mange dehors, il faut déjà, première chose, prévoir. Donc, prévoir où est-ce que tu vas manger et prévoir les trucs que tu vas éviter. Ce n'est pas très compliqué, hein, ce qu'il faut éviter dans les restos. Il faut privilégier un plat où tu as de la protéine. Donc, tu prends une petite viande, un truc avec des œufs. Voilà. Tu demandes toujours l'accompagnement avec le plat. Tu demandes ce que c'est. Parce que souvent, ça va être des putains de frites. Et tu demandes de remplacer les frites par des légumes ou par de la salade. T'évites les desserts. Après, moi, je ne suis pas très dessert, mais prends plutôt entrée plat que plat dessert. C'est mieux. Et faut éviter de toucher au pain. Ça, moi, j'avoue, j'ai beaucoup de mal, je prends beaucoup de pain. Mais souvent, en fait, si tu fais ça, finalement, tu peux bouffer au restaurant autant de fois que tu veux, dehors. Et ça marche assez bien. Tu peux prendre entrée plat, nickel. Moi, ça tombe bien parce que j'aime beaucoup la viande, donc je prends toujours des trucs. Et les viandes, en fait, ce n'est pas des trucs qui sont très caloriques, à moins que tu en prennes des tonnes. Quand tu manges dehors, il faut faire de la stratégie. Il faut planifier un peu parce que sinon, ça peut vraiment te niquer tous les efforts d'une semaine, si tu pars en couille. Et quatrième chose, hydratation. Ça, pour le coup, c'est très important de bien boire. Vous savez, je bois régulièrement et même pendant ce podcast. Donc pour ça, ma technique, elle est très simple et imparfaite. C'est que j'ai toujours une bouteille d'eau au frais. Parce que bon, la première friction de boire, c'est que tu n'as pas de contenant, tu dois te remplir un verre, etc. Donc j'ai toujours une bouteille d'eau au frais. Je vais bientôt transitionner sur des gourdes parce que j'ai découvert que c'était pas ouf de boire dans des bouteilles en plastique, même si je les réutilise. Un peu dégueulasse en termes de, je vais pas dire de conneries, mais perturbateurs endocriniens, etc. et tout. Voilà, donc hydratation, très important de bien boire. Et là, la meilleure chose, c'est d'avoir de l'eau disponible dès que tu as soif. Voilà, toujours avoir de l'eau à côté de toi. Première chose sur les repas. Donc, on est toujours dans la partie santé. Seconde chose, les compléments alimentaires. Alors là, il va falloir que je me lève parce que je vais aller choper tous les compléments. Je me suis fait une routine, les potes. Et oui, d'ailleurs, je vais vous faire... Putain, je sais pas s'il sera disponible pour aujourd'hui parce que j'ai quand même envie de vous l'uploader rapidement, ce podcast, mais je vais vous faire un Notion avec les liens vers tous les trucs. Là. Parce que Florent, du coup, je le connais, il m'a filé un petit lien d'affiliation qui vous fait une réduction sur Fruitjes. Et je pense à ça aussi parce que là, je vais vous expliquer les compléments. Bon là pour le coup le Raptor m'a pas fait de lien d'affiliation, pas de réduc pour vous, mais je crois que c'est pas trop la politique de la maison, mais je vais quand même vous en parler parce que je les prends et je suis très content. Donc j'ai 3 salves de compléments alimentaires. Ça peut vous paraître beaucoup, mais je vais vous dire à chaque fois lesquels je garderai si je devais en garder que quelques-uns. Donc là je suis debout, je regarde. Le matin je me lève et je prends 4 trucs différents. J'ai plusieurs fournisseurs différents. Le premier c'est Raptor Nutrition. Donc le matin, je prends du Tribulus. Tribulus, c'est pourquoi les médecins vont m'enculer, mais c'est pour la testo. Je crois que c'est l'un des stimulants de... Bref, pour la testostérone, je crois que ça t'aide. Avec plein d'autres choses, ça optimise. Et ça fait partie des quelques composés, je crois, qui aident à la testo avec le fenugrec, je crois, que je prends aussi derrière. Bref, donc Tribulus le matin, quelques petites capsules, donc 3 capsules dans le truc Raptor Nutrition. Et ensuite, je prends les 2 choses qui sont des boosters intellectuels de concentration, qui sont Berserk Fuel et Limitless. Ce sont 2 produits aussi de chez Raptor, qui sont super. Et là, pour le coup, si je devais en recommander que quelques-uns, je prendrais ceux-là. Je n'ai pas pris le Tribulus tout le temps. J'en ai commandé, puis arrêté d'en prendre, puis recommandé. Et pour le coup, ces trucs-là, ça fait vraiment la diff en termes de concentration. Donc, je recommande. Et ensuite, je prends des prébiotiques que je prends chez NutriPure, donc Pure Bio 2. Donc ça, c'est pour la digestion, voilà, pour la flore intestinale. Ça, c'est le matin, donc c'est avant de partir à la salle. Donc en même temps que je pars à la salle, je me fais un petit pré-workout. Donc là, pour le coup, je le prends aussi chez les Raptor Nutrition. Ça s'appelle Work. Le pré-workout est assez bon, c'est un goût fraise. Je le prends voilà, 30 minutes avant la salle, et je le prends même quand je fais pas de sport, parce que ça aide pas mal à la concentration. Dedans, il y a pas mal de trucs. Bon, je connais pas la composition par cœur, mais je vois vraiment la différence. Et le goût est bon, c'est dans les habitudes. Tu fous ça dans un verre, tu mélanges tranquille. Donc ensuite vient le moment des légumes. Donc on est toujours le matin. Hein. Je suis pas encore parti à la salle à ce moment-là, parce que je fais mes séances le matin. On en reparlera plus tard. Et là, je prends mon petit Fruitjes. Donc Fruitjes, c'est quoi? Tu fous de l'eau dans un shaker, il t'en file un. Tu mets ta petite poudre là. Et ensuite, je rajoute 2 choses dedans que je viens prendre chez NutriPure. Je prends la glycine et le collagène. C'est en fait des choses qui aident à plein de choses, mais entre autres, pour moi, ce qui m'intéresse, les articulations. Ça, c'est très cool quand tu fais beaucoup de sport, parce que ça peut fatiguer très très vite, donc ça aide à cicatriser. Si je dis pas de conneries, hein, les médecins, corrigez-moi si je dis de la merde, mais normalement, c'est pas trop mal, tous ces trucs-là. Donc là, je suis prêt, je vais à la salle. Quand je rentre, on repart sur une petite salle. Donc là... avant d'aller prendre ma douche, ça prend 2 minutes. Je prends comment il s'appelle le dernier là, il s'appelle Chill, je crois. Chill, c'est une petite poudre de chez Raptor Nutrition qui est en fait de la créatine, qui est super. Tu mets dans un petit verre, je crois que c'est même plus compliqué que ça, c'est un complexe de créatine qui t'aide pour la construction musculaire. Bon, très simple. Je crois que c'est l'une des seules molécules, peut-être même pas une molécule, bref, un des seuls trucs qui t'aident bien pour la construction de muscles. Et ensuite, on part sur le second fruit juice, parce que je prends du coup 2 sachets par jour. Et après, là, on part sur la seconde salle de compléments. Donc là, je prends des oméga-3. Les oméga-3, c'est des trucs qui sont normalement un peu dans le poisson, etc. C'est des bonnes graisses, très importants pour le cerveau, etc. Je prends, donc c'est toujours chez Raptor Nutrition, mais ça, vous en avez partout. Hein. Je prends de la vitamine D3 de chez Raptor Nutrition aussi. Et ensuite, je prends des trucs de chez... donc c'est des vitamines, hein, très simple. Je prends des trucs de chez NutriPure. Je prends de la curcumine et du fenugrec. Je vous en parlais juste avant. Tout ça. Bon, les amis, je reprends. Là, normalement, mon micro devrait refonctionner. J'ai dû le verrouiller. Donc, il va falloir que je fasse du putain de montage. Merde, je vais pas faire de montage. Je vais remettre ça dans un logiciel, faire un export. Ça me casse déjà les couilles. Bon, on continue. Je termine et j'ai bientôt fini sur les compléments. Parce que là, il y a les plus importants. Il y a ceux avant d'aller dormir. C'est très simple. Donc là, pour le coup, je prends du magnésium. Ça, pour le coup, c'est dans la Pareto. Hein. Vous prenez vraiment votre magnésium. Et du zinc, toujours de chez Raptor Nutrition. Voilà, donc ça m'aide beaucoup pour le sommeil. Le magnésium, on est tous en carence de magnésium quasiment, donc c'est pas mal. Et voilà pour les compléments. Maintenant, on passe à la partie sommeil. Alors, comment optimiser son sommeil? Pour le coup, c'est hyper important. Donc, mon objectif, c'est de dormir minimum 7 heures par nuit. Donc, ça veut dire qu'il faut calculer, par rapport à ton heure de réveil, à quelle heure est-ce que tu vas devoir te mettre au lit. Donc, je me réveille à 6h30, moi, pour aller à la salle, ou 7h. Ça veut dire qu'il faut que je sois au lit prêt à dodo. À 23h30, il faut que ça dorme, tu vois. Donc en gros, je me fous au lit vers 23h, un truc comme ça, je chill un peu et souvent ça passe. J'ai pas forcément de gros rituels, je suis pas très bon sur les rituels de pré-nuit, mais ça marche assez bien d'anticiper son truc comme ça. Donc de se réveiller à une heure fixe aussi, ça marche vraiment super. Donc je traque mon sommeil, maintenant j'aime beaucoup les métriques, mais après je sais qu'il y a des gens que ça stresse, donc vous forcez vraiment pas là-dessus. J'utilise 2 apps qui sont sur l'Apple Watch, c'est AutoSleep et Rise. AutoSleep du coup qui analyse ton sommeil, et Rise qui me file la dette de sommeil, mais je pense que AutoSleep te donne aussi la dette de sommeil, c'est juste que je l'avais découverte avant, donc bref, j'ai gardé les 2 apps. Ensuite, j'aère la chambre, toujours, il faut dormir dans une pièce avec de l'air neuf pour la nuit et à une bonne température. Je crois que la température optimale, si je dis pas de conneries, je crois que c'est entre 18 et 19 degrés. Ben bon, ça doit être autour de ça, il faut qu'il fasse frais dans votre chambre. D'un point de vue matelas, je suis toujours sur... les oreillers, je les prends chez Wopilot. Bon, j'ai pas de lien d'affiliation là, mais j'aime bien. Je dors assez bien dessus. Et le matelas, j'ai un matelas que j'ai depuis quelques temps. Mais figurez-vous les amis, bon, je vous en parle dès maintenant, je ne l'ai pas encore testé, mais je vais bientôt être sponsorisé par Emma Matelas. Je vais leur faire un petit post LinkedIn. Donc j'ai commandé le matelas que j'ai fait livrer chez ma mère, parce que je vais dormir une nuit dessus, après je vais lui donner. Elle m'a dit, quand je lui ai dit, oh putain, c'est les meilleurs matelas du marché. Donc moi, je ne savais pas. Ça tombe bien, parce qu'ils ont voulu me sponsor. Donc, je vous ferai un retour dès que j'aurai dormi dessus. Mais bon, voilà. Surtout que je les ai vus. Je pensais évidemment à Cédric Doumbé, qui en avait fait livrer un à Jordan. Voilà, donc, mais bref, tout ça pour dire, choisissez-vous un bon matelas. Franchement, c'est l'achat le plus important. Vous allez dormir toutes les nuits dessus. Donc, mettez la thune pour un matelas. C'est un bon investissement. Qu'est-ce qui a bien marché aussi? J'ai arrêté le café. Ça, je bois plus que du déca maintenant, et en plus, enfin, depuis très récemment, mais pendant un moment, j'ai vraiment totalement arrêté le café. Ou alors, si vous buvez du café, arrêtez à une heure fixe. Je crois que 14 heures, c'est bien, parce que la demi-vie du café, il me semble que c'est 8 heures ou 6 heures. C'est-à-dire que la moitié des molécules qui sont de caféine qui ont disparu au bout de cette demi-vie. Donc, c'est des trucs qui t'empêchent de dormir. Donc, évitez. J'ai aussi des lunettes lumière bleue que j'ai faites chez Lunettes pour tous quand j'ai fait mes petites lunettes de vue pour l'ordinateur. Donc je sais pas, je crois que il y a un peu de littérature, je crois, pour dire que c'est un peu bullshit la lumière bleue. Mais bon, on va dire que mentalement ça m'aide, c'est peut-être un peu placebo. Et voilà. Et donc ce qui est pas mal et que je vais essayer de mettre en place, c'est d'avoir un petit rituel avant d'aller dormir. Je vais être honnête, je suis nul à chier dessus. Je suis nul, je suis avec mon téléphone. Je regarde Instagram Reels. J'ai pas TikTok, j'ai aucune app. Mais je regarde Reels, c'est juste parce que j'ai Instagram. Et je me mets par contre un minuteur. Ça pour le coup, c'est très important. Dès que j'ouvre Reels, je suis quand même assez conscient pour me lancer un minuteur, je mets 10 minutes. Et quand le truc sonne, je ferme. Parce que c'est le truc pour éviter le vortex. Donc c'est typiquement l'exemple de Ulysse qui s'accroche aux mains. Voilà. Et d'un point de vue santé, ce que je vous recommande aussi, c'est d'aller voir un ostéo. Alors, ça pour le coup, c'est game changer. Le mec me débloque des trucs, c'est hyper agréable. Il fait craquer dans tous les sens. J'en ai un très bon à Versailles qui s'appelle le Dr Sanchez, que je recommande. Mais sinon, voilà, bref, n'importe quel ostéo de près de chez vous fera le travail. Mais parlez-lui de vos douleurs. Dites-lui où vous avez mal. il va vous détendre des muscles, vous craquer dans des petits sens. Enfin, c'est quand même assez agréable. Voilà pour la partie santé. Donc tout ça fait que je me sens vraiment beaucoup, beaucoup mieux depuis que je mets en place tous ces trucs-là. J'ai l'impression d'être beaucoup plus productif et concentré quand je travaille. Je reviendrai jamais dans l'état où j'étais avant, dormir irrégulier, pas bien bouffer, pas prendre de compléments, etc. C'est la première partie. Seconde partie, le sport. Alors pourquoi c'est important de faire du sport ? C'est parce que c'est votre équilibre, parce que vous pouvez développer des qualités dans le sport que vous pouvez réutiliser dans le pro. Typiquement, la résistance à la souffrance. Ça, c'est génial. Et les facultés à se dépasser. Si tu t'es jamais dépassé dans le... Enfin, si tu sais te dépasser dans le sport, finalement, c'est exactement les mêmes muscles que tu vas mettre en... Enfin, muscles entre guillemets, quoi. C'est exactement la même démarche que tu vas faire dans le pro. Quand t'as du mal ou que t'as une tâche difficile, que t'es un peu découragé, etc. Bon, bah, dans le sport, tu sais que tu peux te pousser. Et bah, tu le fais. Donc, mon objectif, c'est de faire... je suis en moyenne, là, du coup, là, 3 salles de sport et 4 running. Donc, mon rythme de vie, il est assez simple. Je me réveille à 6h30 le matin, entre 6h30 et 7h. Je vais faire mon sport. J'aime beaucoup commencer par ça, sinon je vais marcher. Et vraiment que quand je suis dans la sauce niveau taf, moi, je skip une séance de sport et je fais mon taf. Et par contre, il y a une grosse exception. Si vous êtes sorti la veille, si vous êtes fatigué, etc., vous êtes couché tard, skippez. Ne vous essayez pas de faire des réveils de mec hardcore. J'ai dormi 4 heures pour aller faire mon sport, etc. Ça marche un temps, mais vous allez vous cramer comme ça. Donc, c'est le sommeil avant tout. Sommeil avant tout. Donc, si jamais je rentre tard, je décale, je me réveille à 9h, je me réveille à l'heure qu'il faut pour être reposé, parce que je sais que sinon, je vais perdre tellement en efficacité que ça ne vaut pas le coup. Donc, dormez ce qu'il faut. D'un point de vue programme de sport, qu'est-ce que je suis pour la partie salle ? Donc, j'ai pris aussi le programme du Raptor que j'ai testé, qui s'appelle Zero to Hero, qui est très bien. Très bien, très efficace pour si vous voulez vous mettre à la muscu. C'est fort, c'est un programme qui est sur 3 séances par semaine. Donc, 2 séances haut du corps, 1 séance bas du corps, avec des exos de force au démarrage, des pyramides dégressives, et puis des exos un peu ciblés sur les muscles qui vont te faire esthétiquement, enfin te rendre plus imposant, quoi, plus masculin. Donc je suis très content de suivre ce truc-là, ça correspond pas mal à la dynamique que j'avais un peu déjà dans la structuration de mes entraînements avant, donc ça faisait écho à des trucs que je connaissais bien. Donc c'est super, je recommande. Même chose, je crois que j'ai mis un petit lien dans la description, et je crois que pour le coup, comme je suis client, et je dois avoir un lien d'affiliation par défaut. Et ensuite, sur la partie course, donc vu que je partais vraiment de zéro, j'avais besoin d'être cadré. Là, j'ai choisi Campus Coach, qui m'était recommandé par Jordan, enfin le Jordan de Kodak cette fois-ci, par Jordan Zebo. Et bah, voilà, qui est super, qui est une application qui peut se synchroniser avec Strava. C'est super parce que tu peux loguer tes courses et automatiquement, donc il te dit tes entraînements. Il dit par exemple, tu dois faire du fractionné. Toi, tu vas faire ton fractionné, tu le logs dans Strava, tu appuies sur un bouton, ton fractionné, il est dedans, ça réajuste tes perfs. Ça te fait un programme. Donc là, je suis le programme pour faire un semi en 1,47. Vous savez que mon objectif, c'est 1,45, donc il faut surdélivrer. Et bah voilà, je m'entraîne du coup 4 fois par semaine pour ça. Le programme est super, je recommande. Ça coûte pas très cher, ça coûte 15 balles par mois, je crois. Donc très cool. Et ensuite, l'autre partie de ma routine, c'est de faire les 10 000 pas. Alors, les 10 000 pas, pourquoi est-ce que c'est génial, les potes ? Franchement. En plus, bon, tous les bienfaits de santé, je suis pas médecin. Vous connaissez, vous allez vous renseigner, vous écoutez le podcast du Raptor, vous découvrirez bien assez. C'est surtout que ça vous donne du temps pour écouter des trucs, les potes. 10 000 pas, c'est 1h30. Si vous faites 7 000 pas, c'est 1h. Bon, souvent, vous avez déjà fait un peu des pas dans votre journée, donc vous marchez rarement vraiment 1h30. Mais ça vous fait globalement 1 heure par jour pour écouter des podcasts. Écouter Rotout et Mion, par exemple, mais écouter des gens intelligents qui vous racontent des trucs. Donc, je vais vous faire des petites recos après sur les podcasts, ne vous inquiétez pas. Mais ça, c'est, franchement, ça a changé ma vie. En termes de nouvelles idées que tu fais rentrer dans ta tête, ça donne de l'inspiration. Ça permet de toujours avoir des trucs neufs qui rentrent dans ta tête. Ça, c'est hyper important quand tu es dirigeant d'entreprise parce que la boîte est toujours nivelée par toi. Donc, si tu n'as pas de nouvelles idées, il ne se passe pas de nouvelles choses, en fait, dans ta boîte. Pas de nouvelles choses drastiques, évidemment. Donc, voilà pour la partie sport. Troisième partie, productivité. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on produise ? Donc, vous avez un certain nombre d'heures de travail. Comment vous faites en sorte que ça sorte le maximum de résultats pour votre entreprise ? Je vais commencer par vous parler de dopamine. Bon, je ne vais pas vous faire une masterclass sur la dopamine, ça a été traité dans tous les sens par la science et par la bro-science, donc les bro-muscu, là. Tout le monde parle de dopamine. Et ils ont bien raison, parce que c'est hyper important. Et franchement, ce qui est assez fascinant, c'est à quel point la feedback loop de la dopamine est très courte. Quand tu passes une heure sur TikTok, après, comme la façon dont tu te sens dans la journée, c'est horrible. Tu as du mal à te concentrer, tu n'es pas bien, tu n'as plus goût à grand-chose. Ça peut te saper une envie de sortir, par exemple, ou d'aller à la salle. C'est vraiment un truc de ouf. Donc, je vous conseille d'aller pas déclencher, disons, des pics de dopamine pour des trucs qui servent à rien. Et donc, 2-3 petits trucs que j'optimise. Moi, j'ai mon iPhone en noir et blanc, les potes. Ça m'a été recommandé par Tom, le fondateur de Standard Ecom, qui est une autre agence. et que je fais depuis pas mal de temps. Donc c'est super parce que ça évite de passer trop de temps dessus, et puis ça te permet de, quand tu veux prendre des photos et t'as des événements, tu peux toujours le repasser en couleur, etc. C'est très bien. J'ai aucune notification, ça pour le coup c'est un non négociable. C'est vraiment ta vie, il y a un avant et un après quand tu désactives les notifications dans ta vie, j'ai juste celle des messages Messenger. Donc vous voyez que tout ça, en fait, le but c'est pas de dire faites ci, d'être drastique, faites ci ou faites ça, c'est trouver votre équilibre dans les trucs, trouver de la nuance. C'est pas parce que vous avez dit que vous vous levez à 7h et que vous ne pouvez pas vous lever à 9h quand vous êtes fatigué. Gérez vos trucs, mais connaissez vos standards. Sachez si quand vous vous réveillez à 9h, est-ce que c'est au-dessus ou en dessous de votre standard. Ok, c'est une exception, je la prends pour telle raison, mais demain je reviens dans le rang. Et ensuite, mon téléphone est en ne pas déranger la majorité de la journée sur la dopamine. Donc voilà, c'est le seul truc que je fais. Puis de manière générale, c'est bon, j'en parlerai plus dans la partie mindset, j'essaie toujours de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de ne pas me récompenser avant d'avoir fait un effort. Alors, on continue sur la partie productivité. D'un point de vue organisation, je vous recommande toujours ce que je vous disais avant, de penser problème. Donc aujourd'hui, comment est-ce que je m'organise dans ma to-do personnelle? J'ai un board avec tous les problèmes que je veux traiter et un board avec mes actions, donc la to-do, très simplement, ce qu'on pourrait appeler une liste de trucs à faire. Comment ça s'articule les deux? C'est qu'un problème, c'est comme un projet. Dans un projet, tu as plein de sous-problèmes et tu as plein de sous-tâches. Et donc, chaque tâche de ma to-do est reliée à un problème que je veux résoudre. Et donc, je sais chaque semaine quel problème je veux résoudre. Mes problèmes, je les trie par importance. Donc, j'ai un tableau où je note les trucs en vrac. Je les priorise. Et ensuite, je fais chaque semaine, je prévois mes tâches pour la semaine. Et je sais quel problème je vais avoir killé à la fin de la semaine ou pas. Et ça, ça change la vie. Et c'est très différent du template, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'avais partagé sur YouTube. Je viens de le changer depuis une semaine. Ça a super bien marché cette semaine. Vraiment, j'adore. Parce que j'ai à la fois une vue en vrac dans Notion qui permet de noter des trucs quand j'ai des petites idées par-ci par-là. Et parce que c'est ça le problème souvent des to-do, c'est plus tu essaies d'organiser le truc, moins c'est modulable et donc moins tu veux noter de trucs dedans, donc plus tu as de trucs à faire, donc moins tu t'en sers finalement. Donc je différencie deux choses. Je note toujours les trucs en vrac quand je peux dans Notion, ou alors quand je veux vraiment noter vite, je note dans Notes sur iPhone. Et maintenant, comme c'est synchronisé avec l'ordi, je fais un copier-coller derrière. Je sais que ça pourrait synchroniser automatiquement, mais ça marche assez bien comme ça. Voilà, donc j'en étais où sur la to-do. Toc, toc, toc. Ouais, mes tâches ensuite. Mes tâches sont priorisées selon leur niveau d'importance et je leur attribue à chacune une taille. Non pas une taille en heure, mais une taille en taille de t-shirt. Donc c'est S, XS, vous savez, la M, L, XL. Et je sais qu'à peu près, donc une tâche S, une tâche qui prend moins de 30 minutes, une tâche M, moins d'une heure, une tâche XL, moins de 2 heures, et une tâche XXL, c'est un truc qu'il faut que je redécoupe en plein de petites tâches. Donc, j'en ai aucun. XXL. Ça, c'est la putain de clé. Parce que une to-do se range dans des horaires disponibles. Si demain, tu n'as que des rendez-vous, tu ne pourras pas avancer sur ta to-do. Et ça sert à rien de regarder à la fin de la journée en mode « Oh, j'ai rien fait !» Non, soit tu annules des rendez-vous, tu fais des trucs qui sont importants, soit tu sais que tu ne vas rien faire. Et donc, je connais mes nombres d'heures disponibles et je ne remplis jamais tous mes créneaux avec des tâches. J'ai toujours du temps pour l'imprévu parce qu'il y en a toujours, de toute façon, dans la journée. Et donc, je me laisse une demi-heure, une heure pour gérer des imprévus, des trucs, un message auquel tu devrais répondre, par-ci, par-là, etc. Peut-être que je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur comment s'organiser avec Notion. C'est vraiment très simple. Et c'est un template d'ailleurs. C'est un template Notion. Non, mais je suis con. Je me suis quand même basé sur un template Notion. Prenez le template Todo. Il marche très bien. Je l'ai un peu repimpé, mais il est nickel. Donc, mon Slack est toujours coupé. Je ne veux pas me faire déranger. C'est la même idée que les notifications. Je ne veux pas me faire déranger quand je travaille. Je réponds aux mails une fois par jour, deux fois grand max. Quand il y a des messages urgents, mais j'évite les discussions. Le mail, c'est pas fait pour avoir des discussions. Je veux que les gens y comprennent que je suis pas là pour engager une discussion avec eux. Ils m'envoient un message, je leur réponds, mais 4 heures plus tard. Juste assez pour qu'ils soient contents d'avoir une réponse, mais c'est trop lent pour que tu aies envie d'avoir une discussion. Si tu as besoin d'avoir une discussion, soit tu m'écris un message, soit tu m'appelles. Et souvent, les gens, en fait, c'est des filtres. Il n'y a pas beaucoup qui t'appellent. Pas beaucoup qui t'envoient de messages, et pas beaucoup qui t'appellent derrière. Voilà. Ça c'est nickel, je vous recommande. Oui, ma journée donc elle commence tôt mais elle s'arrête aussi assez tôt. Je travaille rarement après 19h, comme ça me laisse tout le temps pour ma vie sociale, les amis. Je fais mon sport le matin et après 19h j'ai plus rien à faire et j'ai tout le temps pour voir des potes et faire ce que les gens font quand ils n'ont rien à faire. Donc parfois ça te laisse le temps, si t'as envie de retravailler tu retravailles, si t'as envie de te refaire du sport tu te refais du sport. Donc là je pense que pour faire mes 8 séances par semaine j'irai certainement prendre une ou deux soirées en plus, enfin, mathématiquement ça va être ça, pour aller faire ma deuxième séance de sport. Et voilà. Et ça marche très bien. Ça permet de se coucher tôt. Et t'anticipes. Bon, il te reste 3-4 heures avant de te coucher. T'as le temps de faire tellement de trucs. T'as le temps d'aller faire tes 10 000 pas. Franchement, je recommande aussi. Ensuite, De manière générale, le bon principe que j'aimerais vous recommander, c'est d'utiliser la récompense. Alors la récompense, c'est parfois, pour certaines personnes, c'est un gros mot. T'as pas le droit de kiffer, t'sais, faut que travailler, charbonner, se faire du mal. Je suis pas du tout pour. La récompense, je vous ferai d'ailleurs un épisode dessus, parce que mon associé Paul me l'a demandé. Et la récompense, c'est comme la célébration. C'est pourquoi c'est important de célébrer des trucs. C'est parce que quand tu célèbres quelque chose, tu choisis quel comportement tu renforces. C'est pas du tout la même chose de... T'sais, vous savez, quand les gens ils disent faut faire la fête, on va faire la fête. Fête, c'est fêter. Il faut avoir quelque chose à fêter. Quand tu fais la fête tous les soirs, tu fêtes rien. Tu fais pas la fête, en fait. Tu te mets une tôle, juste. Par contre, quand tu vas faire la fête pour fêter ton diplôme, pour célébrer une milestone de chiffre d'affaires, ça, c'est du lourd. Et ton cerveau, il est pas con. S'il kiffe la soirée, il se dit « Oh putain, j'ai envie de revivre ça, c'était lourd. » Et ça montre comment est-ce que tu leads ta vie, comment est-ce que tu diriges ta vie. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de récompenser? Quelle est la récompense que j'ai envie d'avoir? C'est comme la médaille à la fin de la course. Tu vas la chercher juste parce que tu dis « Putain, ça récompense le fait que j'ai couru un truc qui avait du sens pour moi. » Donc, choisissez bien vos récompenses et soyez décomplexés à l'idée de le faire. Je ne sais pas ce que vous kiffez. Mais par exemple, j'aime bien aller me faire masser. Un massage. Et bah, de temps en temps, quand j'ai fait une bonne semaine, je me dis « Bon, écoute, quand je fais ça, et bah, je le fais le dimanche. » Mais par contre, ne vous récompensez que quand vous avez fait ce que vous avez dit que vous allez faire. Et c'est comme ça que ça va être super important aussi, c'est que vous allez du coup avoir envie de faire ce que vous avez dit que vous allez faire, si vous êtes honnête avec vous-même. Donc récompensez-vous, la célébration c'est la vie, on ne vit que pour ça, sinon ça ne sert à rien de travailler. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, j'ai un dernier point. À quoi servent les week-ends? Bon, je vais être honnête, les week-ends j'ai du mal à travailler pareil que la semaine, disons sur la même chose. Vous savez, je fais ce podcast tous les week-ends, donc mine de rien, ça demande du travail, ne sous-estimez pas. Mais j'aime bien utiliser le week-end pour faire des trucs un peu différents, c'est-à-dire faire entrer le maximum de contenu dans ma tête. Donc par exemple, si vous aimez bien Enlève tes chaussures, le week-end, c'est un très bon moment pour le regarder, d'une traite. Je regarde des conférences, j'essaie de lire des bouquins, mais je vais être honnête sur la lecture, je ne suis pas très bon. Et j'essaie d'arriver, en fait, ça me permet d'arriver lundi avec l'esprit plein de nouvelles idées. Évidemment, bon, les contenus que je consomme souvent, c'est par rapport à mes intérêts personnels hein, du moment, souvent des trucs que j'ai vus la semaine. Et c'est comme ça aussi que ça alimente toute la partie le meilleur et le pire de la semaine. Souvent, c'est des choses que j'ai regardées la veille, le samedi. Et là, particulièrement, les trucs que je vais vous partager, c'est des choses que j'ai beaucoup consommées hier. Donc voilà pour la partie productivité. Je récapitule. Faites pas les cons avec votre dopamine. Donc ne vous récompensez pas avant d'avoir travaillé et évitez tous les petits trucs que votre téléphone peut vous donner. Organisez-vous avec des problèmes et des tâches. Coupez vos notifications via Slack. Répondez pas trop souvent aux mails. Différenciez les conversations du partage d'informations. Timez bien vos journées. Et utilisez la récompense et utilisez les week-ends pour faire des trucs un peu différents. C'est comme ça que j'optimise ma productivité et que je délivre beaucoup plus ce trimestre-là que les trimestres d'avant. Parce que je vous parle pas de la façon dont je m'organisais. Au Q2. C'était nimp. Bref. Et on passe à la dernière partie, la partie mindset. Bon, pourquoi est-ce que je vous fais une partie mindset? Parce que c'est une façon très très facile de devenir un super performeur. Le mindset, c'est les lunettes avec lesquelles tu vas regarder le monde. Donc il y a des gens qui se disent que tout le monde est un connard, ils vont se balader dans leur vie et chercher toutes les attitudes qui confirment que les gens sont des connards. Si tu te balades dans la vie avec comment ça s'appelle? Ça s'appelle un paradigme, voilà, exactement. Avec des lunettes qui te permettent d'identifier des trucs positifs ou des croyances. Enfin, voilà, simplement si tu as des croyances utiles sur les gens, donc par exemple le travail paie, eh bien, ça rend ta vie beaucoup plus agréable, ça permet d'accéder plus vite à tes objectifs, plutôt que de croire des trucs de merde. Et c'est en fait ça, finalement, la vraie ascension quand tu montes un business. Tu peux tout perdre, la thune que tu as gagner zéro, les start-upers souvent c'est ça, tes employés, ton statut, etc. Ça, tu le perds jamais, la façon de voir le monde. Et c'est ça les vrais learnings. Les gens qui ont fait 40 ans d'entrepreneuriat, ils ont 40 ans de feedback de la réalité qu'ils ont pris comme une claque dans la gueule. Les croyances qu'ils ont dû développer avec ça, elles sont unique. Et c'est pour ça qu'on les écoute. Donc, on est la moyenne des gens qu'on écoute. Écoute, voix, fréquente. Donc, en gros, simplement, vous avez, je ne sais pas combien d'heures, 24 heures x 7 dans votre semaine. Je ne sais jamais combien ça fait. Ça doit faire 140, à peu près, un truc comme ça. Avec qui vous voulez passer ces heures-là? Bon, si vous voulez passer avec des gens de merde, vous étonnez pas que vous êtes là où vous en êtes. Et dites-vous que si vous passiez tous ces temps-là avec des gens qui vous inspirent, des gens cool, eh bien, vous prendriez une distance non négligeable, en fait, vous creuseriez l'écart. J'aime beaucoup cette mentalité, c'est la première mentalité que je trouve très utile, c'est celle de creuser l'écart. C'est-à-dire que, de façon générale, les gens n'ont pas trop envie de se bouger le cul parce que c'est dur sur le court terme. Donc ça fait que tu dois mesurer ton succès par rapport à quel point est-ce que tu creuses l'écart avec ces gens-là. Est-ce que, à quel point est-ce que tu arrives à faire des trucs durs qu'eux n'arrivent pas à faire. C'est un truc qui me motive de ouf. C'est un peu la mentalité compétition. Le fait de battre les gens. Et qui n'est pas si malsain que ça, finalement. Si tu ne conditionnes pas ton bonheur avec. Juste si tu t'en sers pour être un driver d'action. J'en étais où ? Ouais, voilà, je voulais vous recommander. Voilà. Je disais, on est la moyenne des 5 personnes qu'on écoute le plus. Ou avec lesquelles on traîne le plus. Moi, je voulais vous recommander des trucs à consommer en ce moment. Donc, le premier, vraiment, ne passez pas dessus, c'est le podcast 10 000 pas, qui est super et qui m'a transmis cette mentalité creuser l'écart. J'aime beaucoup aussi Range ta chambre d'Elio Avila Munoz. Ça, c'est ce que je mets dans ma tête, moi, personnellement. Beaucoup. Ensuite, j'écoute Modern Wisdom, Chris Williamson, si vous parlez anglais. Je lis pas mal de bouquins de start-upers ou de biographies d'entrepreneurs, etc. Des trucs qui t'élèvent et qui t'inspirent. Sur Netflix, j'essaie, dans la mesure possible, le seul moment où je m'y rends, de regarder des trucs un peu en rapport avec ce que je fais. Bon, comme Tapi, par exemple, c'est un très bon exemple de mêler l'utile et l'agréable. Donc, ça t'inspire aussi beaucoup. Et surtout, faites attention à ce que vous mettez dans votre tête et choisissez ce que vous ne mettez pas. Ne mettez surtout pas de médias. N'allez pas consommer l'actu. Allumez pas BFM, bon, ça, je vous apprends rien, mais là, vous choisissez volontairement en fait, de foutre du caca dans votre cerveau. Et ça pue la race, et vous allez avoir des conséquences derrière sur la façon dont vous allez voir le monde, dont vous allez constituer vos idées. Et vous savez que tout le monde est hyper influençable, donc choisissez juste les choses par lesquelles vous faites influencer. Donc écoutez les trucs bien et attendez juste que votre vie change et que les décisions que vous prenez suite à ça soient meilleures, parce que vous avez écouté des gens qui savent prendre des bonnes décisions. Sur YouTube, je vous recommande, enfin, moi je regarde que deux types de trucs. Je regarde Alex Hormozzi et je regarde des vidéos sport. Je suis le sport, c'est tout, c'est des gens qui m'inspirent pas mal. Allez sur Audible, consommez des bouquins en audio. Ça, pour le coup, ça colle très bien avec les 10 000 pas. C'est super. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? J'en parlerai dans la partie contenu. On va pas aller trop vite. Et voilà, maintenant, je voulais vous partager quelques mindsets utiles. Donc, le premier, c'était creuser l'écart. Je l'ai abordé déjà. Ensuite, c'est la mentalité athlète de haut niveau. Dites-vous que dans vos vies, vous allez avoir toujours un domaine sur lequel vous allez être un athlète de haut niveau. Vous choisissez votre discipline et tout le reste, vous allez être average. Moi, ma discipline, c'est l'entrepreneuriat. C'est monter une agence. J'ai envie d'être un athlète de haut niveau là-dessus. Ça veut dire qu'il faut que je me traite comme un athlète de haut niveau. Donc, je regarde qu'est-ce qu'ils font les LeBron James, les Michael Jordan, les Messi, les Mbappé. Ils ont orienté toute leur vie pour un seul objectif. Et donc, ils font des sacrifices de ouf. Moi, j'ai envie de faire ce sacrifice-là. Tout le monde n'a pas envie de le faire. Ça me plaît. Et donc, je regarde comment est-ce qu'ils font. Bon, OK. Et donc, ça va te permettre très simplement de changer une attitude que tu as au quotidien. C'est-à-dire tu vas pouvoir dire oui ou non à des choses selon à quel point est-ce que ça te rapproche de ton objectif. Il faut le voir au sens large. Il ne faut pas non plus faire le trou du cul en mode « Ah, mon objectif, c'est de faire le maximum de chiffre d'affaires sur ma boîte. Je ne vais quand même pas sortir boire un verre. » Sortir boire un verre, ça a énormément de sens dans une stratégie long terme hein, avec ses potes. Il ne faut surtout pas le couper. Parce que tu te crames. Sinon. Mais bref, la mentalité athlète de haut niveau, j'adore ça. De me considérer comme je suis un athlète de l'entrepreneuriat. Numéro 3, le seuil de souffrance. Donc en gros, on va la faire très simple. Tu peux prendre une corrélation entre les athlètes les plus forts, les entrepreneurs les plus forts, selon le niveau de souffrance, de stress, de pression, de responsabilité qui sont prêts à endurer. Donc ton but, c'est toutes les semaines d'aller un petit peu plus loin là-dedans. C'est pour ça que j'aime bien courir. Et que le MMA aussi, c'est super. Parce que ça t'aide à chaque fois à dépasser ce que tu... quand t'as mal, ça te permet d'aller plus loin, quoi. Et c'est la même chose que tu fais au quotidien dans une aventure entrepreneuriale. C'est dur, tu doutes, mais tu y vas quand même. Et le sport, ça t'apprend ça aussi. Mentalité numéro 4, delay gratification, décaler la gratification, je sais pas. Donc bref, il faut... La différence entre, je trouve, les gens qui réussissent le mieux et ceux qui réussissent pas du tout, c'est pas qu'ils font des trucs radicalement différents, ils vont toujours manger au resto, ils travaillent tous les deux, etc. C'est juste l'ordre dans lequel ils font. Un mec qui a du succès, il va toujours faire le truc le plus dur d'abord, et ensuite il se récompense. Et ça fait la diff. Donc... De toute façon, la vie est un dilemme très très simple entre le court et le long terme. Vous choisissez toujours celui que vous privilégiez. Je vous conseille d'avoir 80% d'actions qui sont orientées sur le long terme et 20% sur le court terme pour kiffer et tenir en fait. C'est très très dur, hein. C'est comme économiser de l'argent. On ne va pas non plus t'es payé 2000 balles, tu ne vas pas mettre 1 800 € de côté et bouffer sur 200 balles. Ça ne sert à rien, c'est ridicule. Donc il faut savoir trouver ce dilemme, cette balance très difficile à trouver, qui est très dépendante des individus entre préserver le futur, enfin préparer le futur. Et profiter maintenant. Mais en tout cas, les deux extrêmes sont ridicules. Donc le one life et le mec qui fout toute sa thune de côté. Mentalité numéro 5, être un ami pour soi-même. Ça, c'est très important, vu que vous vous mettez des standards très très hauts. Et bah, vous allez forcément vous demander de faire des choses dures et vous allez fail. Et là, c'est très important de ne pas avoir un discours négatif envers vous-même, d'être un ami envers vous-même, de ne pas être votre premier détracteur, du moins. Parce qu'il y a plein d'assez de gens qui vont douter de vous, qui vont vous critiquer, etc. Donc ne le faites pas pour vous. Soyez indulgent avec vous-même. Quand vous avez mis en place tous les trucs que vous avez dit que vous allez faire, l'exemple parfait, c'est mon Dexascan. Je vais pas pleurer parce que j'ai marqué 16% sur un taux de masse grasse. J'ai fait tous les trucs que j'ai dit que j'allais faire. C'est qu'une question de temps. Ben, c'est pas celle-là, ça sera celui d'après. J'avais tous les trucs que j'ai dit que j'allais faire, donc je vais être un ami envers moi-même. Je vais pas dire que je suis une merde. Voilà. Et la toute dernière mentalité, dernier mindset très utile, c'est la gratitude. Donc là, je vous recommande d'essayer d'avoir une idée un petit peu de la balance que vous entretenez avec chacune des personnes, à quel point est-ce qu'ils vous ont donné et vous leur avez donné. Donc, réalisez que parfois il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup donné auxquels vous n'avez rien rendu. Ces gens-là, la première étape, c'est au moins d'avoir de la gratitude et de rendre dans la mesure du possible, même si ce n'est pas toujours possible. Et ayez de la gratitude pour tous les trucs qui se passent, quoi. Genre, moi, je suis super content d'avoir la chance de faire Kouda comme je veux, de pouvoir faire ce podcast, de dire nique ta mère à n'importe quelle personne qui me casse les couilles. Et voilà, d'avoir la chance de pouvoir essayer de construire ce que j'ai là, d'avoir 50 personnes, donc d'avoir des décisions hyper leveragées, c'est-à-dire quand je prends une décision, il y a tout ce monde-là qui peut travailler dans une même direction, c'est un truc de ouf, pour lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais donc essayez de vous dire qu'il y a toujours un mec qui est pire que vous, qui est dans une situation pire que la vôtre, et qui l'a pas mérité. Donc je vais pas redire des banalités, l'important c'était la santé, blablabla, etc. Ouais, ça vous rendez compte, de toute façon, dans tous les cas, chaque fois que vous êtes malade, vous dites, putain, en fait, je peux vraiment rien faire quand je suis malade. Donc ayez de la gratitude, appréciez tout ça, parce que sinon, tous ces objectifs qu'on se file, être numéro 1 et tout, vraiment, ça sert à rien. Et voilà, prenez soin des gens, votre famille en premier, et j'essaie de m'y atteler de plus en plus. Voilà, donc ce sont les 4 catégories de recommandations. On en est à combien ? Putain, 26, ok. Donc, tout ça m'a amené à me fixer 4 OKR pour le Q4. Je vais pas pouvoir tous vous les lire parce qu'il y en a qui sont un peu perso et j'ai pas envie de faire un étalage public. Il y a quand même un peu de pudeur, hein. C'est building public, mais il y a vie privée quand même aussi. Donc j'en ai 4, je vais vous parler que de 2, parce qu'après il y a des trucs qui sont un peu confidentiels de Kodak. 2, c'est pas exactement comme ça, mais je vais vous faire une petite overview. Donc le premier, c'est un OKR santé et sport. Donc l'OKR s'appelle comment ? Ça s'appelle atteindre moins de 9% de body fat. De toute façon, je ne sais pas si je vais le remesurer, mais on verra peut-être. À moins de 79 kg et courir le semi-marathon à 1,45. Plus le 10K en moins de 47. Donc 1,45. Dedans, j'ai pas mal de choses. J'ai OKR numéro 1, soulever 105 kg sur une rep au développé couché. OKR numéro 2, soulever 70 kg sur une rep au développé militaire. Faire 45 séances de salle, cramer 46 000 calories, courir 52 fois. Ne plus avoir de dette de sommeil, méditer 76 fois, c'est le truc que je veux rajouter dans ma routine dont je vois les bienfaits, mais que je n'ai pas réussi à faire encore au trimestre 3, je ne l'ai pas priorisé. Et voilà. Ensuite, j'ai une partie sur la vie sociale, que je vais éviter parce qu'elle est très perso, je n'en parle pas. Ensuite, j'ai un OKR content, donc devenir le numéro 1 français en entrepreneuriat, entre parenthèses, 70 000 abonnés YouTube, 152 000 écoutes de podcast et être le numéro 1 en catégorie entrepreneuriat. Donc c'est dodu, j'ai 4 KR dedans, avoir atteint l'épisode 31 d'Euro Tout un Million, donc ça va être dans mes objectifs, je vais être là le plus possible, chaque dimanche. Avoir sorti 6 hors-série dans ce podcast, pour doper un peu les stats. Avoir une vidéo YouTube qui fait plus de 100 000 vues, et après j'ai un chiffre sur les sponsoring, qui sont un objectif en fait Kodak. Voilà, et puis derrière mon dernier objectif, c'est faire un trimestre à 1,5 million de chiffre d'affaires pour le Q4. Et voilà, bon, dedans j'ai pas mal de trucs qui sont un peu des trucs stratégiques de boîte que je peux pas vous révéler. Mais dedans j'ai un objectif par exemple pour prendre LinkedIn, faire 2,1 millions d'impressions, faire 78 posts. Voilà, donc je vais pas vous passer sur le détail. Bref, donc en gros, j'articule tous mes objectifs autour de ma seule grosse target qui est de faire atteindre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à ma boîte. On passe au meilleur de la semaine. Bon, j'ai deux trucs à vous partager. La première, c'est un bouquin qui s'appelle The Science of Growth. Ceux qui me suivent sur Strava le voient, parce que je partage à chaque fois les bouquins que j'écoute d'ailleurs, ou les podcasts. Si vous voulez aller me suivre sur Strava, Théo Lyon. Je suis en train de réfléchir, putain, faut que je vous fasse le Notion aussi. Putain, je vais jamais pouvoir poster ce podcast. En plus, il va falloir que je le monte là. Je sais pas assembler deux putains de vidéos. Quel enfer. Bon, voilà. Donc, ce bouquin est super. Pourquoi est-ce qu'il est super? C'est parce qu'il explique en gros pourquoi est-ce que Facebook a défoncé tout le monde. Pourquoi est-ce que, comment est-ce qu'une une entreprise grossit vite. Et donc, c'est plein de méthodes sur comment analyser un product market fit. Je suis en train de lire, donc j'ai pas terminé. Mais j'aime beaucoup ces récits ambitieux de gens qui sont là pour faire grossir leur truc le plus vite possible. Je trouve que ça manque dans le milieu des agences. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'inspirer beaucoup de ces trucs-là pour ces business non scalables que je monte. Et ensuite, c'est une conférence de Peter Thiel que j'ai trouvé très cool et dont je suis en train d'essayer de vous retrouver le nom. Peter Thiel, c'est une conférence à l'ancienne qui date d'il y a 8 ans parce que j'aime un peu moins ce qu'il poste maintenant. Là, je trouve qu'il est un peu parti dans le politique. Peter Thiel. Ouais, voilà, c'est « Competition is for losers ». Elle est super, elle est quand même bien connue cette citation, ça explique en gros pourquoi est-ce que les business ultimes doivent être construits pour être des monopoles. Et comment est-ce que tu construis un monopole? Ça peut être construit sur plein de choses, notamment, nous, ce qu'on utilise, c'est le monopole personnel de tous les gens de la boîte. Donc Peter Thiel, c'est le mec qui a fondé Palantir, qui a été cofondateur de PayPal aussi, et qui a écrit le bouquin « Zero to One ». Voilà, bon les amis, cet épisode est super long. Je vais devoir le réassembler en plus, donc c'est 30 minutes, etc. Je pense que je ne vais pas prendre de questions pour cet épisode de Retour tes millions. J'espère que ça vous a plu quand même. C'était un épisode très, très dodu, très dense, sur pas mal d'astuces que j'ai mises en place. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi si ça fait partie des sujets que vous aimez. Mais c'est vraiment que des trucs qui peuvent vous être utiles sur comment produire mieux. Ce n'est pas des astuces concrètes en mode scale telle partie de ta boîte, etc. Ça, je vous le fais dans tous les épisodes. Des choses qui, à titre personnel, vous permettront de mieux exécuter tout ce que je vais vous recommander dans les épisodes suivants. Merci à tous. Je vous conseille d'aller mettre une petite note hein. Sur Spotify. Vous savez qu'on a challenge. Il faut qu'on arrive à 1000. Je vous l'ai déjà dit. Donc, faites votre petite contribution, s'il vous plaît. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous embrasse. C'était Théo pour Retour tes millions. Bisous.